Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Et si finalement, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas forcément un dossard, mais d'aventure. C'est ce dont nous allons parler avec mon invité du jour. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast où nous parlons de course à pied, mais surtout, surtout, surtout de mode de vie sportif, de mouvement, de comment le mouvement nous apporte du bien-être, nous apporte aussi parfois une petite dose d'aventure dans notre quotidien. Et c'est ce dont nous avons parlé aujourd'hui dans cet épisode avec Stan Gruau. Alors Stan Gruau n'est pas très vieux, mais il a un bon paquet de kilomètres dans les jambes, dont une traversée de la France en courant, 15 jours entre Lille et Nice. Et ça, vraiment, quand il m'a raconté ça, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut se lancer dans un tel défi? Comment ça se passe? Et comment, surtout, on arrive à trouver des routes entre Lille et Nice, ou alors la ligne la plus droite et la plus facile semble être l'autoroute, et pourtant, lui, il l'a fait en courant. Voilà, on a parlé de tous ces sujets-là, mais aussi de sa manière de courir la nuit dans les rues de Paris quand il était trader, les sensations particulières ressenties pendant certaines courses, qui sont un petit peu hypnotiques, comment il était parti dans une vie de hamster et comment il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Mais nous avons aussi parlé de certains coureurs qui parcourent le monde en courant et qui l'ont inspiré, et qui sont partis tels les Forrest Gump à accumuler les kilomètres et les kilomètres et les kilomètres. Voilà, autant de sujets qui nous font une belle sortie longue et qui parfois nous font une sortie longue un petit peu perchée, vous allez l'en écouter, mais c'est tout le charme de la course à pied de nous procurer chacun des sensations un petit peu différentes. Avant de vous laisser avec Stan, je voudrais vous faire quelques rappels, bien entendu. D'abord, c'est vous pouvez partager le podcast sur Instagram et Twitter avec le hashtag KM42podcast et bien sûr, vous me taguez avec mon compte @BertrandSoulier. Ensuite, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast et soutenir ma vie sportive, mon rêve à moi de devenir sportif pro à ma manière, champion du monde de mon monde, via Patreon, la plateforme de financement participatif. Vous pouvez donner à partir de 1€ par épisode. Vous avez les épisodes sans la pub, en avance, plus mon journal d'entraînement, qui est un podcast privé tous les lundis matin, dans lequel je donne des détails, je vous explique un petit peu ce qui se passe, quels sont les futurs invités, je vous pose des questions, on interagit, vous pouvez mettre des commentaires. Et puis, bien entendu, vous avez le Hamsters Running Club. C'est le club bienveillant pour nous entraider à réussir nos défis de course, de vélo, de triathlon, de tout ce que nous voulons, mais en tout cas, nos petites aventures à nous que nous avons envie de réussir, voilà. Et bien dans le Hamsters Running Club, on s'entraide, on discute, on partage, on se conseille avec le sourire, la bonne humeur, et on rigole bien, il faut le dire, alors venez nous rejoindre dans le Hamsters Running Club. Maintenant que je vous ai dit tout ça, il est temps pour moi de fermer ma bouche pour partir à l'aventure avec vous, avec Stan. C'est parti. Bonjour Stan.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Eh bien écoute, ça va impeccable.
Ah bah écoute, tant mieux, parce que en ces périodes un petit peu troublées par des virus, par des choses qui passent comme ça, les gens disent oui, j'aimerais bien avoir des dossards, j'aimerais bien courir, etc. Mais toi, d'après ton compte Instagram, j'ai vu que t'avais pris l'air, que t'avais fait de la randonnée, des choses comme ça ce week-end, alors c'est grand sourire?
Ouais, grand sourire, disons que je suis plutôt d'un naturel optimiste, alors on essaye d'aider un maximum les gens à mettre le nez dehors, donc je le mets moi-même pour trouver l'inspiration. Mais je dois t'avouer que sur les courses et les grands rendez-vous, ça me manque aussi.
D'accord, alors comment tu te présentes en quelques mots, sachant que moi quand je regarde un petit peu ton parcours, on va dire que tu as plusieurs casquettes, hein, on verra lesquelles casquettes dont on parle au fur et à mesure, mais toi c'est comment tu te présentes là en quelques mots?
Je dirais que je suis jeune papa, peut-être en numéro 1, et jeune entrepreneur aussi, et vieux trader, et peut-être malgré moi, ancien coureur d'ultra qui aimerait retrouver son niveau d'antan et qui étonnamment, en vendant ce genre d'expérience ou en tout cas en prônant le dépassement de soi et ce genre d'expérience aux autres, et ben j'ai du mal à le faire moi-même dans cette période. Donc je suis vraiment à la clé de, je recherche si tu veux des tutos et autres pour s'y remettre quoi. C'est fou. Je suis dans une phase un peu moins dedans sur la course à pied, mais je l'ai été très très fortement, voire très très fortement addict il y a 4-5 ans quoi.
Oui, alors ça voudrait dire qu'en fait on est un peu dans le cordonnier le plus mal chaussé, hein, finalement tu vas faire courir les autres et faire les autres parcourir des kilomètres, et puis toi tu, à force d'organiser, t'as pas le temps trop toi d'être dedans quoi.
Ouais, c'est un peu ça, et puis avec quelques éclairs où parfois je me mets un coup d'énervement et quasiment sans prépa, je vais traverser le désert du Chili en courant sur 300 bornes quoi. Tu vois, c'est tout est un peu c'est un peu désordonné, et comme je suis assez radical et voire excessif, d'un coup je me dis tiens, c'est demain, et là je mets une paire de grolles et je fais 200 bornes quoi. Et puis après calme plat pendant 3 mois quoi.
Oui, alors là tu dis ça comme ça, mais moi demain je m'énerve, je vais pas faire 200 bornes.
Non mais j'ai un peu un passif aussi, tu vois, c'est ça qui peut être intéressant d'expliquer.
Oui, alors on va parler du passif, parce que c'est vrai que là il y a des gens qui disent ouais, attends, le mec il s'énerve, il va faire 200 bornes. Enfin, moi je m'énerve, je vais partir faire 15, 20, peut-être 25, tu vois, comme ça, et encore qu'en ce moment je suis pas capable de les faire, mais à 200 bornes quand même.
Bah, c'est vrai, mais ça fait longtemps que ce virus de l'ultra m'a piqué, malgré moi au début. Ça a commencé, j'avais 20 ans je pense à peu près, j'en ai 34 aujourd'hui, 20 ans, j'ai commencé à, je sors d'école, de l'EDEC, une école de commerce à Lille, je faisais un peu de sport là-bas, mais pas trop, mais un peu tout quoi, le sport social, donc je faisais du foot, du rugby, du n'importe quoi, en gros mettre le nez dehors. J'ai toujours été super sportif, mais pas vraiment dans l'ultra, pas vraiment dans la course à pied, que j'ai toujours trouvé un peu chiant. Je disais toujours, tu vois, j'étais ce gars-là qui avait une bière à la main, qui disait « Ouais, moi, je veux bien courir, mais après un ballon, tu vois. » Enfin, on l'a tous, ce gars-là, ce pote-là. Bah, j'étais un peu ce gars-là. Et puis j'ai commencé à rentrer en salle de marché, en étant trader à la BNP l'année de la chute des Lehman Brothers, une période un peu qui a secoué l'économie et le marché. Puis moi, c'était le début de ma rentrée dans la vie active. Et donc, je me suis retrouvé à ne plus avoir de temps pour rien faire. Et je rentrais chez moi vers 22, 23, peut-être parfois minuit. Et j'avais besoin de hurler, de me dépenser, parce que c'était, voilà, c'était hyper particulier comme rythme de vie. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai commencé à courir dans les rues de Paris de minuit à... au début de minuit à minuit et demi, et puis ça finissait, tu vois, c'était assez grisant. Il fait nuit, il n'y a personne, c'est calme, et en même temps, tu sais que tu ne devrais pas être en train de faire ce que tu fais, donc il y a une espèce de côté, j'étais un peu survolté, il y avait l'adrénaline de la journée, et puis voilà, puis je rentrais à minuit et demi, puis après une heure, deux heures, trois heures, et puis je commençais à faire en fait des premiers marathons en pleine semaine, de nuit, du mardi au mercredi, quoi, tu vois, des trucs un peu bizarres.
Ouais, bah tu te prenais un peu. Un jour, j'ai imaginé en courant qu'on pouvait être un peu façon Arsène Lupin, tu sais, enfin voleur dans les nuits là qui court comme ça, puis qui s'arrête devant des l'ombre dans la nuit qui court. En fait, c'était toi donc l'ombre dans la nuit qui courait dans les rues de Paris.
Ouais. C'est vrai, je courais beaucoup. À l'époque, j'habitais vers Opéra et Odéon, pardon, et je courais vers dans les rues de Montmartre. J'allais chercher un peu de dénivelé. Je trouvais ça sympa sur les pavés. Je montais les marches. Il y avait les gars un peu bourrés qui sortaient de bar. Regarde-le celui-là. Puis je refaisais des tours de Montmartre, donc ils me voyaient passer 3-4 fois. Ils se demandaient si c'était la pinte de trop pour eux. Ils se demandaient si c'était la pinte de trop pour eux ou si c'était bien moi qui passais 3-4 fois. Donc ouais, cette période un peu particulière, et là ça a duré peut-être...
Vas-y.
Pas de problème. Donc c'était une période un peu particulière, ça a duré peut-être un an et demi comme ça, 12-18 mois. Et puis, mais en tout cas, ça a été un cliquet pour moi. Je suis passé de presque pas de course à pied à capable de courir... à courir un marathon quoi. Donc après je me suis inscrit à des marathons, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, j'en ai fait un peu partout dans toutes les villes d'Europe, et après j'ai continué cette vie là de trader jusqu'à mes 30 ans, et en fait la course à pied a été le pendant quoi de cette vie hyper excessive dans le boulot et stressante, et bah du coup je balançais tout sur la course à pied à côté quoi, et donc en gros je suis arrivé à je suis arrivé à l'ultra comme ça, et je me suis rendu compte en fait que j'avais une performance un peu particulière, c'est-à-dire que j'étais pas le plus rapide. Je faisais 3 heures au marathon, donc tu vois j'avais un bon rythme, mais j'étais pas kényan masse graisseuse 5% quoi. Je savais que je ferais jamais 2h30 ou même 2h40 au marathon quoi. Mais bon, comme je courais beaucoup, tu sais, par la force des choses, bah tu vois, t'as un rythme de fond qui commence à être bon, quoi. Donc, du coup, tu peux faire 3 heures. Mais en fait, particulier, c'est que j'étais pas fatigué en fait après. J'avais l'impression que j'étais pas fatigué. Pour autant, je pouvais pas courir beaucoup, beaucoup plus vite, mais j'étais pas fatigué. Donc, je me suis inscrit à des 100 bornes. Donc, j'ai fait sur route. Moi, j'adorais la route. J'ai fait les 100 bornes de Mio, édition quelque chose comme 2011. Puis j'ai adoré, j'ai mis 11h30, j'étais pas mal classé. Et puis je me suis dit, en fait, je peux faire vachement mieux. Je l'ai refait une année après, j'ai mis 10h. Et là, je me dis, bon, là, c'est bien, tu vois, tu fais 100 bornes en 10h. J'avais un bon rythme, je me sentais bien. Et puis je me sentais pas fatigué après, quoi. J'ai toujours trouvé ça étrange. Et je me suis dit, mais putain, où est-ce que ça va me mener, ce délire de pas être fatigué, quoi. Et puis j'ai voulu me lancer des défis de plus en plus impressionnants, mais pour moi-même, quoi, parce que moi, c'était pas la course organisée qui me plaisait, c'était l'idée d'être en train d'explorer un morceau de moi-même, tu vois. Il y avait un côté presque, là, je vais faire un peu peur, mais il y avait un côté un peu ésotérique. C'est-à-dire, en gros, c'était l'état émotionnel dans lequel je me retrouvais, dans ces états un peu seconds, que je trouvais hyper grisant et qui m'excitait à fond. Je suis un peu compète dans l'âme, mais c'était pas ça le moteur. Sur la course à pied, ça n'a pas été ça. Voilà, c'était une espèce de spirale comme ça du shoot d'endorphine et d'état second le plus important que je puisse trouver, quoi. Donc je crée mes défis pour être capable de me mettre dans des états inexplorés, quoi. Donc tu vois, c'est un peu dangereux quand tu dis ça comme ça, mais c'est un peu ce qui s'est passé, c'était un peu le processus.
C'est étrange parce que quand tu dis ça, en fait, moi, tu vois, quand tu regardes les films avec les traders, et t'as l'impression qu'ils ont cet état-là où... Enfin, en fait, on voit que les traders par les films, on se dit, ouais, ils ont des moments où ils sont super heureux, super contents, ils ont de l'adrénaline, des choses comme ça. Et en fait, tu me dis que toi, tu le retrouvais finalement dans la course, cette histoire-là. Et ça me surprend.
Ouais, alors c'est pas une adrénaline à proprement parler que je trouvais dans la course. C'était un état de... Ouais, peut-être une forme d'adrénaline, je sais pas, mais c'était un état, en fait, non, de sérénité, si tu veux, justement. Un état de calme, l'espèce de calme, je veux dire un truc bizarre, mais j'en ai jamais pris au-delà de toutes les imageries populaires des salles de marché, mais un état comme si j'étais, quand tu vois des gars qui font des espèces de sous-héroïnes, là, qui planent complètement, bah c'était cet état-là, tu vois, que je cherchais. Parce que l'excitation court terme, énervé, rythme cardiaque qui pulse et tout, ça, je l'avais toute la journée. Ouais. J'étais debout, j'avais des auréoles dans ma chemise qui rejoignaient les boutons du milieu, j'étais debout, il n'y avait pas de siège, on avait 16 écrans, c'était un délire. Si tu veux. Ça, c'était chaque jour, était comme ça. Tu redémarres chaque journée, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu remets les compteurs à zéro tous les jours de ta vie quand tu fais ça, c'est super particulier. Mais par contre, justement, j'avais besoin de cet état d'ultra, de fatigue telle que ton corps est... T'as l'impression d'être un peu au-dessus de ton corps. Là, c'est encore plus ésotérique, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti plusieurs fois. J'ai eu, j'ai deux moments comme ça qui me marquent, mais là, du coup, je démarre peut-être un peu tôt dans le podcast sur des trucs très très chelous, hein. Mais c'est des états de transe que j'ai eu quand je courais, où j'avais l'impression en fait que je pouvais absolument tout faire avec mon corps, en course, quoi. J'ai l'impression qu'il pouvait rien m'arriver. J'ai l'impression que j'étais comme si mon esprit regardait mon corps d'un extérieur et lui disait vas-y, vas-y, fonce, fonce, et que j'étais une machine, quoi. Mes machines retranscrivent pas exactement ce que je vivais parce que c'était pas bourrin, c'était pas dans la douleur, etc. J'avais l'impression, je te dis, d'être en dehors de mon corps, un truc vraiment, un état particulier. Donc je recherchais plutôt cette espèce d'extrême quiétude et sérénité et voilà. Et c'était des moments où j'avais l'impression d'être en phase avec moi-même et que j'étais en train de vivre des émotions puissantes. J'avais l'impression d'avoir que ma vie était beaucoup plus claire à mes yeux, que j'étais capable de trier ce qui était important, ce qui l'était moins. Enfin, ouais, ça paraît un peu particulier, j'entends, mais à la fois au Chili et à la fois lors de ma traversée de la France, il y a eu deux moments comme ça où j'étais, ouais, j'appelle ça des trans, un peu des trans de course à pied, quoi, des trans émotionnelles.
Non, mais après, on peut trouver ça chelou ou pas, mais c'est une réalité de beaucoup de coureurs, en fait. Alors après, ça a été décrit même, on dit que sur certaines distances et très longues distances, il y a des états où ça arrive. Mais je pense effectivement qu'on a besoin aussi de ces moments-là, surtout quand on est sous pression toute la journée. Finalement, il y a un moment, et je pense que certains, et j'avais écouté des épisodes de podcast qui en parlaient, un peu de la méditation du coureur. Des fois, l'impression de te regarder presque de haut ou de l'extérieur, et de finalement être un peu hypnotisé peut-être aussi par les pieds, par le bam bam, par tout ça.
Ouais, par le paysage qui parfois défile et qui peut être un peu le même. Et à la fois, je pense que c'est aussi, ça dépend beaucoup des personnalités, tu vois, des coureurs. C'est qu'il y en a qui recherchent aussi qui font ça parce qu'ils sont à la recherche de, certes, bon, les buts pour se mettre à la course à pied et pour poursuivre cet exercice, ils sont aussi différents que de nombre de personnes, aussi multiples que de nombre de coureurs, mais, moi, c'était pour une petite recherche de performance, d'avoir l'impression de faire quelque chose d'un peu extraordinaire dans ma vie de type ordinaire. Et puis, il y avait aussi être capable d'accéder à des émotions un peu si particulières qu'elles te font apprendre quelque chose sur toi-même. Et moi, c'était des émotions qui sont souvent un peu d'euphorie décidément, je continue dans la même lancée, mais où parfois je me mettais presque à pleurer, où j'allais essayer un peu de me forcer un peu à pleurer pour faire ressortir des choses. Tu vois, ça a été vraiment. Parce que là, je suis pas en train de te parler de la course du dimanche. Hein, je te parle dans les grandes épopées ou dans les grandes aventures que je faisais. J'ai toujours essayé de me forcer à aller rechercher dans les émotions des espèces d'accélérateurs de performance. Tu vois, dans le sens où tu sais que quand t'as une phase qui est pas bien tu sais que trop bien, il y a ces phases là où on dit que le moment où ça va le moins bien, c'est juste après le moment où ça allait le mieux. Souvent en trail, on dit ça en trail, mais bon, je pense que c'est valable tout le temps. C'est-à-dire qu'au moment où tu dis ah, je suis à fond, j'accélère, tu peux savoir que 10 minutes après, tu vas être à deux doigts d'abandonner.
Ça m'est arrivé sur mon marathon, cette histoire-là. Mon marathon de Paris, ça m'est arrivé. Hein.
Au kilomètre combien, toi ?
Mon kilomètre le plus rapide doit être le kilomètre 30. Et le kilomètre le plus lent.
Le 32, quoi.
Non, et le 29, déjà. Et le 32. Oui, ensuite, ouais. Mais à un moment donné, et c'est vrai, je comprenais pas, parce que je revois très bien ce moment-là où tout d'un coup, ça allait pas et tout, j'en ai un peu marre, et tout d'un coup, c'est reparti. Et puis, j'ai regardé ma montre, j'ai dit, mais oh, tu t'en mal là, ça va trop vite. Et j'étais reparti, mais pleine balle. Et puis, d'un coup, c'est retombé. Donc, même sur des épreuves type marathon. C'est quelque chose que moi j'ai connu, en tout cas cette espèce de très haut, enfin très bas, très haut, et puis bon, après quand ça retombe, par contre ça retombe, ça fait mal, hein, ça c'est sûr. Que
mais du coup je suis assez convaincu en tout cas que le mental peut permettre de faire tenir le corps beaucoup plus qu'un kilomètre ou deux, tu vois, et que je pense que ça c'est un exercice auquel on s'habitue, pas forcément musculairement, en fait tu t'habitues à tenir cette espèce d'état d'euphorie le plus longtemps possible, et quand t'es capable de tenir sur des longues 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 distances, parfois tu peux être dans ces phases-là, si t'es capable de les allonger, t'es capable d'allonger les phases où t'es un peu en euphorie et de réduire un minimum les phases où ça va pas, c'est-à-dire tu sais à peu près ce qu'il faut faire pour te sauvegarder, tu sais ce dont t'as besoin, tu t'arrêtes quasiment, tu vois, t'arrêtes d'essayer de faire comme si ça allait, tu vois, quand tu te connais bien, tu dis bon là je suis dans une phase 100, donc je me calme, je sais que ça va pas durer longtemps, je remange un peu, j'écoute un peu mon corps, j'essaye de, tu vois, bon après chacun a ses petits trucs, mais et plus le temps allait, plus j'étais capable, j'avais l'impression d'allonger les phases où j'étais en euphorie complète. Et sur la traversée de la France en courant que j'ai fait en 2011 et la traversée du Chili en 2018, ces phases-là, surtout sur le désert du Chili où là c'était super monotone, tu vois des dunes, et ça pouvait durer comme ça 80-100 bornes, donc il faut c'est particulier, et du coup je me faisais des histoires dans ma tête, tu vois, je me créais je devais me faire des films, quoi, pour essayer de casser cette monotonie là, quoi. Je m'imaginais presque des paysages, je m'imaginais comment allait être mon arrivée, peut-être que j'allais gagner la course, et je me faisais des trucs, des scènes un peu épiques pour tenir comme ça de kilomètre en kilomètre, et jusqu'à être capable de courir 30, 40, 50 kilomètres sur des rythmes de 12, 13, 14, tu vois, vraiment, tu sais, c'est plus vraiment raisonné. Et ça, c'est peut-être la seule expérience de l'ultra que j'ai réussi à construire au cours de ces dernières années. Sinon, le reste, bon, chaque ultra est différent. À chaque fois, tout est permis. Mais
alors, t'as dit un mot qui est important. C'est traverser de la France, hein, ton projet de traverser de la France. Enfin, projet non, parce que c'est traverser réussi avec un record. Comment on vient à l'idée de faire ce truc-là? Parce que dire on fait Lille-Nice en courant, à part vraiment être fauché, un étudiant vraiment fauché qui veut partir en vacances, je vois pas qui peut faire ça. Et encore, il fera du stop.
c'est une sacrée histoire ce truc. C'est parce qu'en fait, j'étais déjà personnellement, j'étais en recherche de défis parce que j'avais cette vie de trader depuis un an et demi. J'avais 24 ans ou 23 ans à l'époque et j'étais en recherche de défis. Déjà, ça commence, j'avais besoin de me fixer quelque chose. Je me disais, mais c'est pas possible, je vais pas faire cette vie-là toute ma vie, être trader, mais c'est pas possible. Ça y est, je suis un papa à 23 ans. Ça me faisait, la perspective m'angoissait un peu. Donc, j'avais besoin de créer un peu d'aspérité. Donc, ce projet-là, il me plaisait vachement. Comment ça a démarré? Je fumais. Je fume une clope à un dîner de copains près des grands boulevards. Je me souviens, il y avait Mathilde, Antoine, Cyril, Benjamin, ils se reconnaîtront, on était tous les cinq. Et du coup, je ne sais plus qui parlait du Paris-Dakar ou d'un truc comme ça, et il dit « Ouais, moi j'adorais le faire en moto », et tu dis « Sérieux, un truc avec des voitures, c'est abusé, moi je le fais en courant, à la limite, il y a un effort, mais je ne comprends pas pourquoi, je ne comprenais pas cette euphorie autour du sport auto. » Tout le monde éclate de rire général, tout le monde se fout de ma gueule. Il me dit « Mais attends, arrête, tu fumes des clopes, et t'es sportif, mais t'emballes pas, tu ferais pas un quart d'heure dans ce désert. » Puis je me souviens, là, à ce moment-là, c'était une histoire un peu d'ego, quoi. Je me dis « Mais… » Et puis à la fois, en même temps, ça m'a éclairé sur la différence entre qui je pensais être et qui j'étais au regard des autres et de ceux qui… de mes potes proches. Et j'ai dit « Putain, j'étais piqué au vif. » Et je me suis dit « Bon, non, je réagis pas, parce qu'en fait, je crois qu'ils ont raison. » J'ai arrêté, j'ai dit « Ok, j'arrête de fumer maintenant. » C'était ma dernière clope, elle est déjà fumée. Mais c'était il y a une demi-heure. Et donc, et je traverserai la France en courant. Pour commencer, d'ailleurs, très vite. Et du coup, ce qui s'est passé, c'était en février. Et je me suis lancé le 4 septembre. Donc, ça n'a pas été si long que ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Dès début février, j'ai commencé à me dire, bon, maintenant, il faut que je m'entraîne. Je bossais à Saint-Germain-en-Laye et j'habitais Paris, Iéna, derrière le palais de Tokyo. J'avais 22 bornes 5 entre mon lieu de travail et là où j'habitais. Et du coup, le matin, je partais en RER. Je grattais des calepins pour la boîte que j'allais monter 8 ans plus tard. Et le soir, je rentrais en courant. Et donc, au début, ouais, ça faisait un semi, puis deux semis, trois semis, puis cinq semis sur la semaine, et ainsi de suite. Puis on progresse vite, quoi. Mmh. Et à un moment, on progresse vite. Et comme j'adorais ça, je me faisais un marathon ou le samedi ou le dimanche, et j'ai fait ces semaines-là pendant 6 mois, quoi. Donc en gros, je faisais, deux fois cinq, on va dire 100 bornes pendant la semaine, voire un peu plus, et je faisais en gros 150 bornes par semaine, quoi. Et donc assez vite, je me suis senti super en forme, j'avais l'impression que je pouvais enquiller les kilomètres. À nouveau, je ne suis pas dans la performance en train de le faire le plus rapidement possible, parce que je passais des coups de fil le soir pour être capable de discuter et d'être sur un rythme qui soit le mien, tu vois, à l'aise. Et ça m'a bien aidé. Je le recommande d'ailleurs pour les gens qui se demandent s'ils sont sur leur rythme anaérobie ou s'ils sont sur un bon rythme aérobie justement, de mettre des AirPods ou un kit main libre et de passer des coups de fil. Et on doit être capable de converser, quoi. Mmh. Et donc ça marchait bien. Et donc, je me suis dit, OK, Google Maps, combien d'étapes, c'est quoi le record? C'était un Britannique en 18 jours. Je me dis, un Britannique qui a le record de la traversée de la France en courant, pas possible. Il faut qu'on corrige ça. Et du coup, j'ai fait mon tracé. Et puis, j'ai contacté des potes autour de moi. J'ai trouvé un kiné Puis j'ai monté une petite équipe, il me fallait 8000 euros, je crois. J'ai essayé de trouver des partenaires. J'ai pu avoir X-Bionic à l'époque, une marque suisse de bons matos. Donc ils m'ont dit, vous êtes athlète X-Bionic pour ce défi, puis on verra par la suite si vous avez envie de continuer. OK, donc ça c'était fait. Donc ils m'ont équipé des pieds à la tête, ça c'était génial. Et après, j'ai réussi à trouver des partenaires à droite à gauche et c'était parti, quoi. J'ai rejoint l'EDEC Lille, l'EDEC Nice. Moi, je suis un ancien EDEC, donc l'école était super contente de m'offrir, la ligne de départ et puis l'hébergement la veille. Tu vois, ils ont fait un peu de logistique départ, un peu logistique arrivée. J'avais pas grand-chose à faire. Moi, j'ai fait 14 pré-réservations pour des logements ou des gîtes d'étape ou des trucs un peu… Parfois, c'était un peu gypsy, mais des trucs simples, tu vois. Et on était… moi plus un ou deux potes, il y avait ma copine de l'époque et puis un bon copain qui était là et un kiné. Donc on était souvent, on était moi plus trois. Et puis en fait, ça s'est fait aussi simplement que ça. On a loué une bagnole au Avis de Paris Étoile et on a mis des stickers par-dessus. Et record la traversée de la France en courant, un gyrophare. On a demandé quelques autorisations à droite à gauche. Et voilà. Et donc au début, on est parti comme ça. Et après, c'est presque après les premiers jours que ça a commencé à être un peu médiatisé, que j'avais des copains qui avaient entendu parler du truc, qui venaient, les sponsors qui venaient avec leur, tu vois, leurs collaborateurs pour dire, bah, en fait, le gars qu'on a sponsorisé, on y croyait peut-être à moitié, mais là, ça fait quand même 4-5 jours, il est en train de tenir le truc, aller faire un coup de vélo avec lui ou aller faire 20 bornes avec lui. Et au final, il y a quasiment plus de 500 personnes, je pense presque 600 personnes qui ont couru un tronçon avec moi de ces 1200 qui ont couru avec moi un tronçon de ces 1200 km de Lille à Nice en passant par Paris, quoi.
Alors, une question que je me suis quand même posée, c'est par où tu passes ? Parce que, bon, Lille, Nice, pour moi, c'est que de l'autoroute. Donc, forcément, courir sur l'autoroute, c'est un peu compliqué. Comment est-ce qu'on fait la trace, j'ai envie de dire, pour faire ce trajet-là ? Il y a des petites routes. Alors là, vraiment, je me dis, comment tu as fait ta trace ?
Ouais. En fait, j'avais fait un tracé Google Maps. Sans passer par les autoroutes ni les nationales. Alors, c'était que des routes départementales ou des communales. Et les départementales, très peu. Il y a eu quelques tronçons. Et dans ce cas-là, il y avait la bagnole qui était derrière moi avec les warnings. Et il y avait souvent un copain ou deux qui étaient en vélo devant. Et ça, c'était pas top. C'était pas hyper appréciable. Mais j'ai fait quelques heures quand même sur des départementales. Et sinon, c'est plutôt sur des routes communales, avec les champs à droite, le petit village à gauche. Ouais, donc c'est pas le parcours le plus direct, probablement. Il faudrait que je regarde déjà sur autoroute combien ça fait. Mais c'était pas le parcours le plus direct, mais j'ai traversé la France, quoi. C'était vraiment, j'ai vu la France, quoi. Ça, c'était vraiment cool. Et je devais passer par Paris parce que c'est pas le chemin le plus court. Excuse-moi, tu m'entends parce que j'ai l'impression que
je t'entends. Ouais.
J'ai Siri qui se déclenche et j'entends pas bien. Et donc c'était pas le chemin le plus court, mais super super beau, super varié. Je dois avouer que j'ai quand même cru que j'allais pas y arriver quand même dès le début, quoi. En gros, ça partait. Tu veux, en gros, quand tu prépares un truc comme ça. Tu penses tellement à la logistique du tu vois, que ça se passe bien, que tu puisses te retrouver sur la ligne de départ, qu'une fois que t'es sur la ligne de départ, je me suis dit, oh putain, merde, c'est genre merde, je vais vraiment prendre le départ de ce truc. Et c'est quand même assez compliqué de se rendre compte, et je crois que c'est pareil pour les, et là je retrouve ça un peu maintenant dans la vie d'exploration, d'aventure, etc. Et quand je discute avec des explorateurs, la plupart se rendent compte de ce dans quoi ils sont lancés sur la ligne de départ, ou même dans les premiers jours. Avant, ils ont tellement d'assurance, ils doivent tellement défendre leur truc auprès des sponsors et tout ça, qu'ils ont l'air faciles. En fait, on réalise même pas ce qu'on va faire, on le réalise en même temps que les autres, quoi. J'ai fait cette première étape de Lille à Bapaume, 92 bornes, premier jour. Bon, il y avait plein de monde, l'euphorie du début, il y en a peut-être une centaine d'étudiants de l'EDEC, parce qu'ils avaient, c'était le jour de la rentrée scolaire en septembre, et du coup, il y avait peut-être une centaine qui avaient couru avec moi, donc jusqu'à 40, 50 bornes, tu vois, c'était la foire, il y avait des sonnettes, des cornes de brume, des bagnoles, des klaxons, et puis les 50 dernières bornes, je me suis retrouvé tout seul, et putain, et là, je commençais à galérer, et je me disais, mais attends, c'est pas possible, tu t'as encore 14 jours derrière, si t'arrives à l'issue de cette première étape. Et pour la petite histoire, les sponsors financiers m'avaient dit, il faut quand même que tu fasses 4 jours.
Ouais.
Il m'avait dit, si tu fais pas 4 jours, mon ami, franchement, bah, tu nous as piqué notre fric, quoi. En gros, si t'arrêtes au bout d'une heure, donc je devais faire au moins 4 jours pleins. Et en dessous de 4 jours, ils estimaient qu'ils n'avaient pas eu la visibilité qu'ils voulaient. Donc j'avais cette espèce d'épée en disant, il faut que je rende 10 000 balles, qui sont d'ailleurs pas quasiment déjà dépensées, si en plus je le fais pas. Donc j'avais cette pression-là. Et puis, je finis la première étape, et un gîte d'étape Nord-Pas-de-Calais, je ne peux plus marcher. C'était à l'étage, le truc, je ne pouvais plus, et j'avais des courbatures dès la fin de la course, c'était même pas le lendemain, c'est que je ne pouvais plus marcher. Donc j'ai mon pote qui me porte dans les escaliers pour aller m'allonger, et là je me dis, c'est chaud, quoi. Donc là je reçois tous les messages, well done, ça va être une expérience de fou, well done, jour 1 et tout. J'étais là, oh la catastrophe, quoi. Enfin tu vois, à la fin du premier jour, j'avais l'impression d'être... l'imposteur, quoi. Tu sais, je me disais, mais attends, ça va être un couac, on va se foutre de ta gueule, mon vieux, ça va être coton, quoi. Et donc je pensais, mais pas du tout à l'arrivée, je pensais juste au réveil le lendemain matin, quoi. Rien d'autre. Et j'ai parcellisé comme ça ce qu'on fait beaucoup dans les courses, c'est ce que je pense naturellement on est obligé de faire pour que la distance nous semble mentalement acceptable et que le corps fasse pas un refus d'obstacle. Et du coup, bah, moi je découpais comme ça de 10-15 bornes en 10-15 bornes ma journée. Et ouais, je courais à peu près 80-85 bornes par jour de moyenne. J'avais des sessions à 50-60 et d'autres journées à 100-105. Et en gros, deuxième matin, je vais pas faire tous les jours comme ça, mais deuxième matin, je me réveille et je me dis, je me suis cassé les deux chevilles. J'avais l'impression de ne pas pouvoir foutre un pied devant l'autre. Et là, j'ai mis peut-être 2 heures à me chauffer, tu vois. Genre, je marchais, au début, je boitais, après, je marchais doucement. Et au bout de 2 heures, j'étais capable d'avoir une foulée, quoi. Là, je me dis, bah, franchement, je suis en train de défoncer mon corps, je ne sais pas ce qui va se passer. Et petit à petit, en fait, chaque jour, je mettais un peu moins de temps à me chauffer. Le coup dur, ça a été au bout de 7. J'ai commencé le mercredi, j'étais à Paris le samedi. Enfin, ouais, Champ de Mars samedi matin, et c'est le lundi-mardi, j'avais 5-6 jours de course, 5 jours, j'avais perdu 11 kilos, et là, je commençais à pas me sentir en forme, tu vois, je me sentais défoncé quand tu démarres la journée, mais pas défoncé, genre, vraiment, tu vois, je me sentais pas bien, quoi, j'avais toujours un peu envie de vomir, je me disais, mais là, mec, t'es au bout, je me suis lancé, je fais 76 kilos, c'était mon poids de forme de course à pied. Je me suis que entraîné en faisant de la course et des pompes parce que je trouvais que le haut du corps est important, surtout je courais avec un sac à dos et quand le haut du corps est frêle, je trouve que c'est pas évident de tenir sur la vraie longueur, on a souvent des problèmes de dos et tout, donc je préférais structurer aussi les épaules et donc je faisais des pompes, je faisais 1000 pompes par semaine et je courais 150 bornes. Ça, en gros, c'était un peu mon rythme de croisière d'entraînement. Et puis ouais, au bout d'une semaine, ça allait pas, le médecin, j'étais allé voir un médecin du sport, docteur Cascua à Paris, qui est super d'ailleurs et que je recommande. Et il m'avait dit, donc on faisait de l'automédication, donc il m'avait dit, écoute, de toute façon, je vais pas être là avec toi, donc ça va être à distance, donc tu t'auscultes, tu s'il y a ça, ça et ça, bah tu m'appelles, tu m'envoies un texto tous les soirs pour me dire combien tu as perdu de poids. Et comment tu te sens, tu vois, une phrase, c'est tout, quoi. Si tu perds plus de 11 kilos, plus de 12 kilos, on arrête. Il m'a dit, sinon après, ça va être hyper dangereux, puis il y a des phases où tu pourras pas reprendre du poids aussi vite, puis tu vas te faire des fractures de fatigue, après ça va être sans fin, quoi, et ça va pas être bon. Et donc, j'arrive dans cette chambre d'hôtel le lundi soir, je me pèse, moins 11, je suis, oh putain, je vais arrêter à cause du médecin, enfin, à cause de cette... Et lendemain soir, moins 9, et ainsi de suite. Et en fait, j'ai fini à moins 7 ou moins 6 la quinzaine. Donc en gros, je me suis vraiment rendu compte qu'au bout d'une semaine, ou peut-être un petit peu moins, le corps, il commence à s'habituer, tu vois. Et tu peux lui mettre ce que tu veux dans la tronche. Enfin, il faut que ce soit en phase avec l'entraînement que tu as fait avant. Il ne faut pas que tu te fasses des fractures, évidemment. Là, c'est des points de non-retour. Mais tant que tu ne vas pas dans la fracture, tant que tu es juste dans un effort soutenu, que ton corps peut tenir, au bout d'une semaine, il s'habitue hyper bien, quoi. Et la deuxième semaine, elle a été... Enfin, j'ai adoré, quoi. Tu vois, cette deuxième semaine de traversée de la France. C'est-à-dire, ça a été du vrai plaisir. Je pense que ça aurait duré une semaine ou deux ou trois semaines de plus. J'avais l'impression que ça allait aller de mieux en mieux, quoi. J'ai hyper souffert au début et après, hyper facile. Je surfais pas le truc. Je me sentais vraiment que c'était vraiment facile. J'étais hyper en forme. Mon corps s'était adapté, habitué. J'avais retrouvé un bon rythme de sommeil et tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je me dis... pourquoi pas faire des trucs beaucoup plus longs, bah, tu vois, je pense qu'il y a une phase vraiment compliquée au début où là, toute la préparation, tout l'enjeu de la préparation est vraiment dans comment ton corps va réagir à cette espèce d'impact vénère des premiers jours. Mais après, une fois que ton corps s'est mis en mode course à pied, c'est spécifique à la course à pied. Après, quand t'es pas parce que la course à pied, c'est du poids de corps, donc tu vois, c'est beaucoup plus mieux réparti et beaucoup plus équilibré que dans d'autres sports. Et du coup, ouais, on est arrivé à Nice 15 jours après. C'était ouais, exaltation, c'était génial. C'était une sacrée épopée, ce truc.
Si tu devais le refaire, alors je te dis pas que tu vas refaire le même truc, mais si tu repartais justement sur un truc comme ça, ou ce que tu as refait ensuite par la suite, comment tu peux te dire que tu vas mieux gérer ce départ, là, cette adaptation? Est-ce que tu peux. C'était l'entraînement avant que tu avais peut-être un peu sous-estimé par rapport au. Parce que finalement, faire 150 par semaine et 90 d'un coup et puis tous les jours. Ça fait quand même un sacré saut, quoi.
Ouais, j'aurais dû être un peu plus précis. J'ai eu fin juillet, début août, j'ai eu peut-être un mois. La dernière semaine, j'ai presque rien fait 15 jours avant le départ. Mais entre la dernière semaine de juillet et la troisième d'août, j'ai fait un mois hyper costaud où je faisais quasiment un marathon par jour déjà. Pendant presque un mois. Donc tu vois, je me disais ça va être un peu plus que deux fois plus que ça pendant deux fois moins de temps. Mais tu vois, donc j'avais déjà en fait eu un pré et je courais en Espagne et dans le sud de la France et sous des chaleurs de malade. Et du coup, j'avais déjà eu un moment un peu où j'avais tapé dedans quoi. Donc en gros, je dirais ce genre de cours j'aurais dû le faire plus progressivement en fait. Là, et c'est ça qui est vraiment qui montre la jeunesse du gars, c'est que j'ai pris la France et j'ai divisé en 15. Hein. Pour le parcours, tu vois, j'ai vraiment, je me dis putain le mec, donc j'ai vraiment fait bête et méchant quoi, j'ai fait au plus vite et j'ai essayé parfois j'ajustais en fonction pour essayer d'attraper une grosse ville avec un peu plus d'hébergement que prévu ou machin, mais dans l'ensemble j'aurais dû faire comme on fait sur Racing the Planet, enfin toutes les courses de 4 déserts, de tous les ultras, de Marathon des Sables et autres, bah ça démarre avec des premières sessions qui sont courtes quoi. Donc j'aurais dû faire progressivement une montée comme ça. J'aurais dû donc faire quelque chose de plus progressif. Je pense pas que ce soit dans le. Je pense que ça aurait été dans l'alimentation. Pareil, j'avais ça. Je mangeais des trucs, des salades sau piquet à la con, des trucs de pâtes qui étaient assez acides en fait et qui étaient pas bons parce que tu vois quand tu cours en plus t'as, de base t'es toujours un peu des potentiellement des remontées un peu acides. Et du coup, c'était pas en plus la bonne alimentation. Donc, j'aurais dû aller voir un nutritionniste, je pense. J'aurais dû faire des pré-menus beaucoup plus en phase, un peu plus digeste, moins industriel. Et j'aurais dû faire une montée plus progressive des étapes. Ouais, grosso modo. Bon, ça aurait donné sur la deuxième semaine, ça aurait donné des distances énervées aussi, tu vois. C'est ça, c'est que si j'avais vraiment commencé à pas faire 90, mais à faire 20, 30 ou 40, il y a des jours où j'aurais pris 150 bornes dans la tronche, quoi. Et là, t'as peut-être le point de non-retour, tu vois. Je sais pas. Mais nécessairement quand même un peu plus progressif. Ouais, un peu plus progressif. Mais bon, c'est passé comme ça. Je sais pas si demain je me relançais, ce que ça donnerait. Mais je suis content de garder ça au passé parce que clairement. Alors du coup, ouais, non, attends, pour la petite histoire, parce que j'avais dit à mes potes, je vais commencer par la France. Et à la base, le pitch que j'avais fait à mes partenaires, c'était la France, enfin non, c'était trois étapes. Il y avait la traversée de la Bretagne que j'ai fait en mai 2000, 2011, donc genre 6 mois avant. Deux, 3 mois après avoir décidé d'arrêter de fumer et de m'être lancé là-dedans, j'avais fait Saint-Malo-Brest. Tout seul avec mon sac à dos, j'ai demandé rien à personne, j'avais pris un TGV jusqu'à Saint-Malo, puis après Saint-Malo-Brest, donc ça faisait 300, 350 bornes sur 5-6 jours. Donc déjà, c'était pas mal, ça s'est bien passé. Après, il y avait la traversée de la France, et le défi ultime que j'ai pas fait encore, et je sais pas si je me lancerai, mais en tout cas, s'il y avait un truc, ce serait ça, c'était de faire Paris-Athènes. C'est en gros de traverser l'Europe et d'arriver à Athènes en courant. Que je trouve que c'est une belle terre de course à pied et d'ultra. Du coup, ça reste un peu dans l'air.
Ouais. J'ai lu que, parce
One
qu'en
day,
fait,
quoi.
quand j'ai fait des recherches, j'ai vu que c'était prévu au début, t'as dit sans doute en 2013, mais t'avais dit ça juste après avoir fait
Bah
2011, en
ouais.
fait.
Bah grave. Et depuis que dalle en 2013, quand je me suis lancé là-dedans, j'étais genre junior sur le desk et je pensais que j'avais énormément de boulot, mais en fait, j'en avais un peu. Et après, j'en ai eu énormément. Je passais à responsable du desk, responsable de l'Europe. J'ai bougé à Genève et je me suis fait engloutir dans cette vie et la course à pied. Du coup, après, j'ai plus réussi à me faire mes propres aventures. Tu vois, j'avais pas le temps, donc je m'inscrivais à des courses. Donc c'est là où j'ai fait des marathons, des machins, des Ironman. Tu vois, j'essayais de trouver un peu de Tu vois, j'essayais de trouver des expériences qui me refassent un peu vibrer, et donc je savais plus trop quoi faire en fait. Et donc je me suis lancé dans les Ironman, j'en ai fait un complet, des half. J'ai pas hyper aimé quoi. J'ai trouvé que c'était, j'ai pas trouvé beaucoup d'amour dans les participants. Tu vois, j'ai trouvé que c'était dur en fait comme univers. Les mecs, j'ai trouvé que c'était dur. C'était très très compète. Il y avait pas beaucoup d'empathie, de communion et tout. C'était hyper individuel. Je le trouve toujours d'ailleurs, Et j'ai pas hyper aimé, parce que moi, c'est pas pour ça que me lance dans des défis, c'est justement pour l'extrême inverse. Donc, j'ai trouvé que j'avais fait fausse route. Donc, j'ai revendu mon vélo en carbone et j'ai cherché d'autres choses. Après, du coup, je me suis lancé dans. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu aimes bien faire? En fait, c'est les courses de plusieurs jours. Tu vois, c'est les multi-day races. Je trouve ça super, super cool. Mais la traversée de la France, c'était cool. J'étais avec des copains, mais c'était quand même, on était un peu dans notre petite bulle. Chercher quelque chose un peu plus en communion avec d'autres. Et je suis tombé sur une boîte qui s'appelle. Je leur fais de la pub, je sais pas s'ils en ont besoin, mais. Il y a du bon et du moins bon cette organisation. Il y a plein de choses, je suis assez contrasté, mais en tout cas, c'est une organisation qui s'appelle le Four Deserts Challenge, le challenge des quatre déserts. Une organisation américaine, une organisation anglaise, pardon. Et donc, c'est la traversée de quatre déserts. À chaque fois, le principe est le même, c'est un peu comme le marathon des sables. Mais je pense que ça avait été créé avant le marathon des sables, mais c'est juste un peu la version anglo-saxonne. Tu vois, le marathon est hyper connu, le marathon des sables est hyper connu en France, mais c'est un peu la version anglo-saxonne. Et du coup, c'est la traversée du désert de Gobi, du Sahara à l'époque, avec ACMI et les risques au Sahel, ils l'ont mis en Namibie. Et puis un peu comme le Paris-Dakar qui a été dérouté, et puis la traversée d'Atacama, et puis si tu as fait ça, tu as le droit de traverser un morceau d'Antarctique, tu vois, en gros. Et ouais. Bon, le truc, c'est que c'est hyper cher, c'est genre un peu, pour être honnête, c'est un peu du vol. Mais bon, je me dis, bon, je vais essayer ce nouveau format, j'ai l'impression que ça colle, c'est 250 bornes en 6 jours, ou 300, j'ai un trou maintenant, 250 ou 300 bornes en 6 jours. Et du coup, hyper progressif, donc tu vois, 20, je crois que c'était 25, 35, 40, 50, 90, rien le vendredi, et un sprint de 15 bornes le samedi, puis après, full pizza, full bière, quoi. Je trouvais ça rigolo, j'avais envie d'aller au Chili, puis je me suis lancé ça en 2018, donc tu vois, vraiment, c'était. J'avais déjà démissionné puis commencé à lancer Explora, mais bon, ça c'est peut-être un autre sujet pour plus tard. Et j'avais envie justement de renouer à ce délire-là de course un peu d'ultra. Et là, c'est un format que j'ai beaucoup, beaucoup aimé parce qu'il y avait de la communion. Parce que c'est des courses où tu vois, t'as 100 nationalités, le soir t'es sur un base camp où t'as un feu de joie, tu vois, c'est super cool. T'as des coureurs de partout sur la planète, chacun partage son truc et tout. Après, c'est juste ultra cher, c'était 4 000 $. Bon, c'est quand même fou parce qu'en plus, t'es en autosuffisance, donc tu portes tout et tu dois tout amener. Donc, c'est vraiment 4 000 $ pour la course, la tente et des ravitaux de flotte, quoi. Ce qui est. Ouais, bref. Mais bon, tu vois, je l'ai quand même fait. Donc, je l'ai quand même fait, mais je pense que si ouais, je le referais, mais enfin, tu vois, sponsorisé ou qui finance une partie, mais je trouve que c'est vraiment hyper cher. Ils ont attrapé un business qui est pas d'ailleurs, il y a pas beaucoup de Français. D'ailleurs, je pense que c'est beaucoup trop cher pour les Français, mais les Anglo-Saxons, les Américains, les Australiens, ils mordent à ça, quoi. Et là, pour moi, c'est la deuxième expérience super forte. Alors, c'était moins intense, mais c'était une course. Donc là, il y avait la compète, puis il y avait quelques pros, je crois qu'il y avait une quinzaine de pros, de la team Garmin, un Hongkongais de la team Garmin, il y avait la team Oka, enfin il y avait quelques marques de trail. Et là, je m'étais pas particulièrement entraîné, je suis arrivé dans là-bas, bah, il faisait 45, quoi, 45 degrés, désert, endroit le plus sec du monde. Donc encore un autre délire, tu cours et tu as le. Ça te brûle la gorge, quoi. Il fait ultra, ultra sec. Bon, donc l'acclimatation, je suis arrivé la veille aussi, donc je suis capacité à faire les trucs vraiment comme parfois limite, limite, mais je crois que c'est le cas de beaucoup quand on bosse, on prend tout. Bah, bref. Et ça, très bon délire. J'ai trouvé ça extra. J'ai beaucoup souffert les premiers 2 premiers jours. Et au final, je finis 12e de cette course, 3e de la dernière étape, le sprint dans le désert. Et pareil, je suis allé beaucoup souffrir la première étape du dimanche lundi. Mardi, ça allait vachement mieux. Mercredi, à partir de mercredi, j'avais des ailes, quoi. Et je pense que s'il y avait été une semaine sur 15 jours, je finissais vraiment vachement mieux, quoi. Ça allait de mieux en mieux quand tout le monde allait de moins en moins bien. C'est un peu ce que je sentais, quoi. Et j'ai trouvé ça super, super riche, super fort. J'ai un souvenir que j'oublierai jamais, qui est de traverser, qui est l'étape de 90 bornes. Pour ceux qui connaissent le désert d'Atacama au Chili, une vallée qui est la vallée de la Luna, avant la vallée de la Muerte. La vallée de la Luna, c'est hyper beau, on a vraiment l'impression d'être sur la Lune, en l'occurrence. Et c'était une Sud-Africaine, une femme qui avait 2 ou 3 enfants, qui courait super bien et qui est arrivée première féminine. Et du coup, moi, j'ai couru avec elle une bonne partie de l'étape. On a couru tous les deux peut-être pendant 7 ou 8 heures. Je la connaissais pas, mais à la fin, on se connaissait bien. On parlait de n'importe quoi, de Trump, de la Chine, de l'Afrique, de tu sais, pendant 8 heures, tu meubles, hein. Et c'était super, super cool. Et à la fin, moi, j'avais encore vachement de jus, et c'est le deuxième moment de peu de transe que j'ai vécu. C'est que à la fin, je pense qu'avec elle, on était arrivé 35e au point étape, et puis je finis cette étape 9e, je crois. Et donc après, j'ai bourriné pendant 4 heures tout seul, comme un âne, avec une vitesse, j'étais entre 15 et 16 et demi pendant 4 heures, quoi. Donc j'ai fait en gros quasiment mon meilleur temps sur marathon pendant ce 6e stage, ce qui n'a aucun sens. Et c'est pour ça que je dis que parfois, c'est sur un marathon sur le goudron en pleine ville, je pense que je ne serais pas capable d'atteindre ce moment-là. Et j'ai trouvé ça hyper fort, hyper riche, moment de communion de fou avec les autres coureurs. J'ai vraiment adoré. Et pour l'instant, j'ai, à part ces deux moments-là, plusieurs moments pour traverser la France et cette étape-là de 90 bornes au Chili dans le désert, j'ai jamais réussi à retrouver des états un peu de transe sur des courses organisées en ville, quoi.
Et pourquoi pas le trail ou aller sur des chemins, faire le, je sais pas, viser le Mont Blanc.
J'ai fait la CCC en 2000. J'ai un doute maintenant. Je pense qu'Internet sera ça mieux que moi, mais je dirais 2015. Non, peut-être pas 2015. J'avais mis 15h, 15h30. J'étais arrivé plus 90 ou 100e. Donc j'avais bien gazé, tu vois. J'étais quand même sur un bon. J'avais un bon rythme, mais j'étais bien. J'avais vraiment beaucoup aimé cette course. Après, j'aime pas. Moi, je suis assez spontané, tu vois, et j'aime pas avoir. Je cherche un peu mes propres aventures. Donc mes limites, c'est que dès qu'il faut collecter des points, tu vois, pour avoir le droit de faire. J'ai l'impression d'être un parmi une armée de moutons qui attend, et puis j'aime pas, en gros, ce rapport-là. Je cautionne pas trop ce modèle de sélection par les points et tout ça. Du coup, j'ai jamais fait l'UTMB, mais je sais pas trop, tu vois, j'ai pas trop de plans. Je suis un peu intuitif et un peu surtout désorganisé sur mes objectifs. Ça me prend d'un coup parce que j'écoute un podcast, parce que je vois un film, je vois le tweet d'un mec, et il y a un truc qui se passe, et je me dis, putain, ce mec, il m'inspire, je veux faire comme lui, ou je veux vivre ce qu'il a fait, tu vois, j'ai pas vachement de plans. Donc là, par exemple, je me suis inscrit. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à courir parce que je bosse beaucoup trop pour ma boîte. Et par contre, je me suis inscrit à la Maxi Race d'Annecy, 110 bornes en mai, et à la Swiss Peaks, 360 bornes en août.
Ouais. Tu vois.
Comme ça, un soir, deux dossards d'affilée, inscription sur mon téléphone à minuit dans mon lit, quoi. Voilà, mais je suis pas trop. Donc. Je ne sais pas ce que ça va donner.
Mais alors attends, j'ai envie de te dire que normalement, si tu finis la Swiss Peaks, t'es pas qualifié pour la Diagonale des Fous après, derrière, ou...
Ça, c'est typique moi. Je me suis inscrit, je suis jamais retourné sur le site. J'ai juste vu un blog d'un Américain, je crois que c'était Sage Canadais, je ne dis pas de conneries, qui écrivait un truc, qui avait participé, peut-être que je mélange. Et je vois ce truc et je vois « The toughest trail race in the world ». Je fais « vas-y ». Je m'inscris et puis on verra, ça va au moins me fixer un objectif et puis voilà. Donc mais peut-être je suis pas retourné sur le site, je sais que c'est en Suisse et je peux rien t'en dire de plus, et j'ai cette espèce de ce côté non préparé, je trouve ça excitant aussi. Mais c'est probablement très con, il va falloir que je m'y mette et que je commence à préparer ça, évidemment, mais en tout cas moi j'ai besoin de me fixer des objectifs. Et j'ai besoin de les verbaliser, c'est-à-dire de dire autour de moi, je me suis inscrit à ça, de te le dire là aujourd'hui, je me suis inscrit, pour que n'avoir d'autre choix que de le faire, parce qu'à l'inverse, j'importe une importance probablement trop importante au regard ou au jugement des autres, que ce soit, j'en sais rien. Donc je me dis, une fois que tu l'as dit, maintenant mec, il faut que tu le fasses, et c'est la traversée de la France, c'est rien d'autre que ça. Hein. Donc ça y est, c'est dit.
Ouais.
Donc,
en fait, je viens de chercher en même temps qu'on parlait, c'est le Swiss Canyon Trail qui est qualificatif pour la Diagonale des Fous, pour la Réunion. tu le sauras l'an prochain. Mais j'ai envie de te dire, après, tu sais, tu regardes, comment il s'appelle, Forrest Gump, tu pourrais traverser les États-Unis, tu vois, comme ça, parce que j'ai vu un Américain, là, je suis un Américain sur Instagram, qui prépare la traversée des États-Unis en courant. Alors, lui, je pense qu'il la prépare depuis plusieurs temps, tu vois, il court tous les jours depuis, 1000 et quelques jours maintenant.
C'est Los Angeles, New York?
Alors, je sais pas dans quel sens il le fait, je t'avoue, j'ai pas creusé. Je suis passé sur son compte Instagram, je le suis, tu vois, j'ai regardé ses vidéos et l'autre jour il annonçait ça. J'ai pas regardé le détail. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Parce que c'est un gars qui court tous les jours. Mais tous les jours, c'est son défi, en fait. Et au début, il avait couru pas beaucoup, puis il se met à courir de plus en plus. Et en fait, son métier, c'est de courir, d'être filmé, de faire des vidéos sur YouTube tous les samedis, tu vois, d'avoir un compte Instagram, etc.
Ah ouais, okay.
Et c'est sa femme qui le suit, qui fait des vidéos de lui en courant. Alors, alors par contre, c'est extrêmement intéressant. On voit sa foulée, comment il a évolué en quelques années, etc. Il était footballeur pro, je crois, aux États-Unis, tu vois. Et donc, comment sa foulée a évolué, comment il est de plus en plus rapide. Et j'ai vu l'autre jour, je me suis dit, ça se trouve, c'est peut-être ce genre de défi, tu vois. Il s'est lancé un petit peu comme ça, parce que je sais pas comment on se lance, parce que traverser les États-Unis, c'est quand même un sacré. C'est pas une petite aventure non plus, hein. Donc comment il le fait. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit, bon, ça se trouve, tu regardes Forrest Gump, tu te retrouves à vouloir traverser les États-Unis en courant. Non?
Ben, écoute, c'est marrant que tu dis ça parce que ça tombe tout, c'est tout à fait à propos. Je dirais pour deux choses, pour deux raisons. En fait, quand j'ai commencé à courir, la traversée de la France, quand j'ai dit la traversée de la France, je savais un peu. J'ai pas sorti ça au hasard, en fait. C'est parce que je lisais depuis quelques mois le bouquin d'un Français qui s'appelle Serge Girard.
Ouais.
Peut-être que tu connais.
Oui.
Et son bouquin qui s'appelle Mes 42 195, je crois, hein, Mes 42 195 kilomètres autour du monde. Ce qui est rigolo parce que c'est bon, tu vois, en gros 1000 marathons. Mm. Et en gros, j'avais eu ce bouquin, je sais plus comment. Bah, quand j'avais commencé à beaucoup courir la nuit, là, tu vois, je faisais ça. J'avais lu ce bouquin et je l'avais dévoré. C'est pas hyper bien écrit, mais c'est ça qui fait que tu te dis que le mec, c'est lui qui l'a écrit, c'est complètement spontané, c'est encore plus vibrant. Et le gars, il a traversé, donc c'est un Français, maintenant il doit avoir la soixantaine, et il a couru il a traversé tous les continents en courant. Donc Los Angeles, le fameux Los Angeles, New York, il a fait Sao Paulo, Lima, il a fait Dakar, Le Caire, il a fait Perth, Sydney, et il a donc fait Paris, Tokyo. C'est le plus long, si je dis pas de conneries, c'est 19 000 bornes, et il a mis 260 jours, un truc comme ça. Et après, donc ça va, il avait fait ça, je lis ce bouquin, donc je dis la traversée de la France et tout, et je vois quelques mois après, mais avant ma traversée de la France en courant, qu'il se lance dans la traversée de l'Europe, dans le tour des frontières européennes, avec plus d'un marathon par jour. Il devait courir, c'était une épopée de 360 jours, donc un an où il devait courir au moins un marathon par jour, voire peut-être plus. Et je vois que la première étape démarre au départ de Paris, Stade Charletti, machin. Putain, et que c'est ouvert au public. Donc je me dis, ok, j'achète une paire de Mizuno orange, celle qu'il avait lui aussi sur la seule photo que j'avais pu trouver. Et je suis au départ. Et on est, je sais pas, on est 40, Stade Charletti, que ses potes et tout. Et c'est une étape de 70 ou 80 bornes. Et du coup, je cours dans le peloton, tu vois, je dis rien. Et puis à la fin, pour les 20, 30 dernières bornes, bah, il n'y avait plus grand monde, quoi. On était que tous les deux. Et du coup, je dis, salut Serge, je m'appelle Stanislas, je voudrais traverser l'Europe en courant. Et tout. Et puis, tu vois, le mec, il m'a dit, bah fiston, tu vois, il s'est projeté, j'en sais rien. Il m'a dit, bah, c'est génial. Et donc, on a discuté pendant 20 bornes comme ça. Et ça a été. Ouais, ça a été vraiment une super rencontre. Du coup, j'ai échangé plusieurs mails avec lui pour la traversée de la France. Et c'était génial. C'est un gars. Donc lui, il m'avait vachement inspiré. Et depuis, il a continué des défis depuis, mais un peu en souffrance. Je sais pas, il a fait des traversées sur l'équateur en courant et à la rame. J'ai suivi ça, mais il a abandonné beaucoup de choses. Il est allé très très loin dans le truc, c'était voilà, toute sa vie n'était, il avait tout vendu, sa vie était que course à pied et défi, et plus du tout médiatisé. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Et c'était sa femme aussi qui était, c'est sa femme qui le suivait, qui est kiné d'ailleurs, et qui l'a suivi pendant toutes ces années, donc vie particulière. Donc déjà ça c'était rigolo, c'était au moment en 2011, l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a un an et demi, je fais un TV8 Mont Blanc, une télé locale pour parler de ma boîte Explora Project, de voyage d'aventure et tout. Et en coulisses, je vois un gars, petit trapu, qui me regarde et qui dit, qu'est-ce que tu fais, toi, t'es un peu montagnard et tout. Puis on commence à discuter. Et je découvre un autre mec incroyable, il s'appelle Serge Rotli. Peut-être que tu connais ce gars-là aussi.
Non.
Il est guide de haute montagne maintenant, mais c'est sa deuxième vie. Parce qu'avant, le gars, il a traversé la Terre entière en courant. idem avec sa femme qui le suivait en petite motocyclette. Donc Serge Rotli, R-O-T-H-E-L-I, c'est un Suisse. Et le gars, il a traversé le monde entier en courant. Il n'a pas fait stricto sensu chaque continent, mais il a couru quasiment sans s'arrêter pendant, franchement, je dirais une connerie, mais peut-être entre 4 et 6 ans, peut-être même 8 ans. Hallucinant, quoi. Mmh. Exactement la même histoire. Donc, j'ai l'impression que des Forrest Gump modernes, comme tu dis, voilà, pour reboucler sur ton commentaire, bah, ça existe. Et en fait, derrière, ce qu'il faut y voir, c'est, en tout cas, ce qui porte ces gens-là, c'est les rencontres qu'ils font, tu vois. Mmh. C'est qu'en gros, ils se mettent à traverser des pays où ils voient le monde avec le prisme d'un coureur, c'est-à-dire quelqu'un qui est inoffensif, quelqu'un qui va à la, parce que tu sais, il y a plein de pays où si tu traverses en bagnole à fond, c'est une vitesse qui est trop agressive pour l'environnement local, les gens comprennent pas, tu te protèges un peu de l'extérieur. Là, quand tu cours, t'es ouvert aux rencontres, t'es ouvert aux autres, tu peux pas ne pas parler à quelqu'un qui te parle, tu peux pas fermer la vitre, enfin, tu vois. Donc, c'est un moyen de découvrir le monde qui est très adapté aux rencontres, qui est dans le dépouillement le plus total, qui est à une vitesse où t'as le temps d'observer les choses, la vitesse de la course à pied. Et donc, tout ça, ça amène quand même pas mal de profondeur et de chance de faire des rencontres. Et je crois que c'est ces rencontres qui ont porté, a priori, à les écouter, à la fois Serge et à la fois, à l'époque, d'ailleurs, les deux Serge Gérard et Serge Rotelli, je cherchais les deux prénoms de l'autre, mais ils ont le même. Et peut-être moi aussi, dans ma traversée de la France, mais je me place pas au même niveau que ces champions, qui fait que tu continues, tu vois, qu'un jour sur l'autre, finalement, tu t'arrêtes pas. Et voilà. Ouais. Donc, des belles rencontres.
Alors, en plus, je te dis une bêtise, mais Serge Rotelli, je l'ai contacté. Je voulais qu'il le faire témoigner mais en fait il m'a jamais répondu, mais je m'attendais un petit peu parce que j'avais vu son nom passer sur Instagram et sur son activité guide, etc. Et j'avais un peu creusé, il avait expliqué, j'avais vu une vidéo, je crois que c'est Major Mouvement qu'il avait eu un jour sur son Instagram, qui avait fait une petite vidéo et qui avait dit ouais, de toute façon il vous répondra sûrement pas par mail. Donc je vais envoyer un mail quand même, et j'avais regardé son site et tu vois, et quand
je vais lui dire, ouais, il va te rappeler.
Et quand j'ai vu le site, en fait il a fait 40 912 km en 10 ans de course à pied, Serge Rotli.
Ah, c'est ça.
Donc je leur dis attention, hein, parce qu'il y en a qui écoutent là, 40 912 km en 10 ans. Bon, mais il a traversé l'Atlantique à la rame aussi, hein.
Mais tu vois, c'est rigolo parce que Serge Gérard, c'est 46 000 bornes sur à peu près plus ou prou la même période. Donc, c'est des efforts qui sont assez.
Ouais, et Serge Gérard, alors c'est vrai que, enfin, il y a des vidéos de 2017, on voit qu'il a fait son tour du monde, en fait, en courant. 26 000 km en courant, moyenne 60 km par jour. En fait, il avait fait pendant 430 jours à courir comme ça.
C'est dingue. Hein.
Ce qui est juste énorme, hein, avec les arrivées et tout, les départs. Alors, Paris, Charletti, justement, on voit des images, etc. Mais c'est vrai que depuis 2017, j'ai l'impression que son site n'est pas à jour. Donc, je ne sais pas après ce qui s'est passé. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des personnages, il y en a plein, en fait, des gens comme ça. Et pourquoi toi, tu n'es pas... qu'est-ce qui te fait que tu ne pars pas, toi, comme ça, à l'aventure, j'ai envie de dire plus longtemps, enfin.
Ouais, bah écoute, c'est la somme de plein de choses. Moi, j'aime bien les changements de vie, j'aime bien les goûter à différents univers, différentes choses. Je trouve beaucoup d'excitation dans la variété. Je trouve que ma propre victoire et mon défi à moi, c'est de faire des choses extraordinaires, mais avec une vie ordinaire, dans le sens où j'impacte pas les gens autour de moi, je les force pas à poursuivre cette vie là tu vois. L'idée, c'est, pour moi, ce que je trouve cool, c'est d'être ce que je trouve cool, tu vois, c'est d'être un papa avec j'ai deux petites filles, ma femme, on a un foyer où tu vois, on tout n'est pas sacrifié autour de mes aventures, où il ne faut pas que le temps s'arrête pour que je puisse faire mes trucs. Enfin, chacun peut dans cette famille, chacun peut se développer et faire ce qu'il a envie de faire lui. Je ne suis pas moins imposé ça, parce que d'une certaine manière, tu imposes une vie aux autres quand tu fais ce genre d'aventure. Et j'avais pas envie que ma famille soit dans l'ombre de ce que moi j'allais réaliser, quoi. Et j'ai toujours pas envie que ce soit le cas. J'ai envie qu'on fasse ensemble des choses. Donc c'est pour ça que je me suis j'ai jamais eu envie de tout sacrifier pour. Là, je suis dans phase d'expérience entrepreneuriale autour du voyage d'aventure durable qui me permet quand même de remettre le pied à l'étrier sur des aventures vraiment super cool. Tu vois, celle que tu mentionnais avec Major Mouvement, on a fait des 4000, des 4000 mètres en Alpi avec Serge qui était notre guide justement et Major en juillet. On s'est super marré et c'était génial. Et du coup, j'essaye de goûter aussi d'autres univers, tu vois, là, ça m'a permis de faire de l'Alpi, de traverser la Suède en ski avec des ailes de kite, tu vois, que j'avais jamais fait, et c'est un autre effort, j'ai trouvé ça super cool. Mais c'est vrai que je trouve ça super cool, d'ailleurs, c'est les adjectifs qui me viennent, mais je touche pas la même, encore, la même excitation et la même effervescence émotionnelle nécessairement que ce que j'ai vécu dans mes épopées dans mes aventures en course à pied. Et c'est pour ça que on est en train de réfléchir chez Explora à l'idée d'avoir une espèce de course qu'on appelle l'Explorace et qui injecterait un peu tout ce que je viens de raconter là depuis tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois cette excitation de une certaine partie de compétition, une aventure avec un enjeu, mais qui soit peut-être un peu plus variée que de la course sur goudron, et où tu peux toucher différentes disciplines et tu le fasses dans un bon esprit de partage, de communauté, avec des camps de base le soir, donc tu vois un truc sur plusieurs jours. Donc on est en train de réfléchir au meilleur format assez excitant pour être capable de mettre tout ce que j'ai adoré de mes 10 dernières années dans un événement. Voilà. Ça, je peux pas en dire beaucoup plus parce que y en a pas beaucoup plus pour l'instant.
Ouais.
C'est pas que je veux cacher grand chose, mais on espère une première édition en 2022.
Mais après, ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute ces genres de projets, on se rend compte que chacun peut inventer en fait son projet. Alors, dans un épisode récent, j'avais Arnaud Demester qui lui a inventé une course qui s'appelle la 666, mais qui est 6 km de nage, 600 km de vélo, 60 km de course à pied. Tu vois, c'est chacun son truc. Wow. Et j'avais vu un Américain qui amène des groupes, tu vois, sur un truc qui est l'équivalent de monter l'Everest. Il part d'un camp de base, mais il monte une colline, une montagne, mais il la monte l'équivalent de l'ascension de l'Everest, en fait, tu vois. Donc 8000 et
quelques. En nombre de fois.
Il est fait sur le matin, ils partent, et puis à chaque fois qu'ils arrivent en haut, ils inscrivent leur nom, ou ils tapent sur un truc, ils redescendent, ils remontent, il y a des camps de base, etc. C'est pour travailler le mental, hein, je le dis d'avance, il faudra que je retrouve le nom. Mais... Et en fait, ce qui montre que chacun, en fait, on peut inventer une aventure à soi.
Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et non, mais t'as raison. Et d'ailleurs, tu vois, le sport, tu vois, la tendance du sport et de l'activité sportive et de la compétition depuis 20 ans, c'est aller vers de plus en plus d'extrêmes. Tu vois, moi, quand j'ai commencé en 2009 à courir des marathons, au sein de mes potes, en tout cas de l'époque, qui étaient, plutôt sportifs, tu vois, mais pas normaux, mais tu vois, j'étais un ovni, quoi, à l'époque. Ils me disaient, mec, tu fais un marathon. Enfin, tu sais, le mot faisait, c'était genre presque infaisable. Après, j'ai commencé à me dire, je vais faire un Ironman, mais ils me regardaient avec des yeux hallucinants. Aujourd'hui, franchement, beaucoup, beaucoup de personnes font des marathons. Ça, c'est ultra, ultra démocratisé. On a tous des potes qui disent, oh, je me lance dans un marathon. Tu sais, tu le regardes, tu dis, ah bon, il fait un marathon. En fait, oui, il fait vraiment un marathon. Parce que je crois que socialement, ça s'est vachement, vachement démocratisé. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, je trouve que ça s'est démocratisé à fond. Donc, le sport est allé vers de plus en plus d'extrêmes. Et on parle maintenant de... Il y a des triples Ironman, il y a des Ultraman. Tu vois, pour l'instant, ça commence, c'est quelques personnalités qui le font. Mais franchement, c'est une histoire de mois ou d'années avant que ce soit des compétitions ouvertes avec 200 personnes sur la ligne de départ. Et attendons 5 ans, ça va être des milliers de personnes sur la ligne de départ. Ça, j'y crois à fond. Et ce phénomène-là dans le sport, il est en train de gagner aussi le voyage. C'est-à-dire que les gens veulent arrêter de faire du voyage peinard, ils veulent commencer à faire des aventures. Et des aventures, au début, des aventures pour un peu s'initier. Et puis, c'est pareil. Aller chercher toujours des expéditions et ainsi de suite. Et le trend, il va vraiment là-dedans. Je crois qu'à la fois, Bear Grylls, Mike Horn, tu vois, tout ça, les médias nous ont mis ces images-là comme l'explorateur sportif, comme étant un peu, tu vois, le nouvel homme moderne, le mec à l'aise à la ville comme à l'aise en pleine nature. Tu vois, le gars, il sait tout faire. Il sait faire des équations différentielles et il sait allumer un feu avec de gravier. Donc là, c'est bravo. Et du coup, Bah, c'est un peu pour ça aussi que j'ai lancé, enfin, c'est beaucoup pour ça que j'ai lancé Explora, parce que derrière, il y a un marché qui est en train de vraiment grossir et qui a pas particulièrement, qui à mes yeux, avait pas la demande, enfin, l'offre qui correspondait. Mais c'est vrai que tout ça est hérité quand même. C'est pas la course à pied, mais c'est hérité des émotions et des défis que j'ai quand même vécu grâce à la course à pied et que je continue pour certaines de n'être capable de vivre qu'en course à pied, quoi.
Ouais. C'est marrant que tu parles de Mike Horn, parce que Mike Horn, il fascine les gens. Et puis, on a raison d'être fasciné par Mike Horn. Mais moi, quand je regarde ses vidéos, en fait, il me fait plutôt flipper. Mais personnellement, sa vision de la, du mental, etc., c'est quand même extrêmement hard, quoi.
Ouais. Je ne l'ai pas vu. Ma femme l'a vu en conférence. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Je suis, je sais pas trop quoi penser. Je suis vraiment mixte. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très inspirant parce qu'il arrive à aller au-delà de ce que son corps peut faire. Il arrive, c'est quelqu'un qui est pionnier. C'est quelqu'un qui ouvre des voies. C'est quelqu'un qui est courageux à ce titre-là, qui motive des gens qui ont du mal à se lancer. Il motive des générations de jeunes. Donc ça, c'est nécessairement admirable. Après, ce que je regrette, mais bon, c'est l'ultra-médiatisation amène de l'excès, tu vois, de l'excès dans la manière dont maintenant il s'exprime, c'est-à-dire il est obligé de choquer pour dire ou pas, pour créer cette espèce de TV show impact, tu vois, ce qui fait que tu perds un peu le naturel qu'on pouvait voir dans ses premiers livres. Et qui est encore, je crois qu'il y en a un qui j'irai dormir sous les étoiles et où j'atteindrai les étoiles, et il y en a un, et l'attitude zéro même qui sont plus sobres. Bon après c'est un showman. Il a suivi Bear Grylls qui avant lui avec Man Against Wild et qui continue là sur Netflix. C'est du dur. Hein. C'est You Against Wild. Franchement c'est n'importe quoi. Là on est dans le c'est sensationnel, on a perdu toute crédibilité, c'est l'excès du truc, ça veut plus vraiment rien dire, ça forme pas les gens à l'expédition, c'est un jeu de société le truc, c'est plus c'est bon bref, mais en tout cas c'est ce qui est intéressant c'est quand même comme l'histoire de ce gars-là qui avait pas grand-chose, qui s'est fait ses propres défis, qui s'est fait ses tu vois au début il s'est autofinancé, il s'est démerdé, il a pris des risques, il a tout plaqué, il a tout misé sur le rouge quoi. Voilà. Bon, ça a marché, ça a payé, mais c'est quand même quelqu'un qui a décidé que sa vie serait une diagonale quoi, qui ça irait pas tout droit, que ce serait il prendrait la tangente, qui irait créer de l'aspérité, qui chercherait de l'excitation de vie en se créant ses propres opportunités. Ça quand même, j'aime beaucoup ce message là, il est riche. Quand tu prends ton métro tous les jours, ton bus tous les jours, ton vélo tous les jours, tu ne crées pas de l'aspérité. Il y a un moment, il faut, pour moi vraiment la vie c'est quatre pieds quoi, c'est un tabouret à quatre pieds. Il y a les amis, il y a la famille, il y a le boulot. Mais il y a ce quatrième pied au tabouret qu'on a tendance à oublier, c'est les projets. Et parfois, même s'ils restent à l'état de fantasme, c'est pas grave parce qu'ils font quand même avancer. Mais c'est ces projets d'une vie, c'est ces choses un peu inavouées qu'il faut qu'on verbalise et qu'il faut faire, quoi. C'est cette transat. Alors, je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais pour expliquer, c'est moi, c'est à la base Explora, il y a exactement ce que je t'explique. C'est que je me dis que pour être équilibré et pour avoir le droit d'avoir un peu d'extraordinaire dans sa vie de femme et d'homme ordinaire qu'on a tous, eh ben, il faut aller se créer ces occasions là, se faire des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire. Pour moi, ça a commencé avec la course à pied, mais je conçois que ce soit pas le cas de tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer, tu vois, 30 disciplines, être présent dans tous les environnements, parce qu'il y en a qui sont plus qui voudraient vivre les choses en outdoor de telle ou telle manière, et qu'on a essayé de créer ces expériences-là pour commencer à créer des étincelles, et qu'après les gens s'en emparent et se fassent leur propre délire. Le but, c'est pas qu'ils viennent nous voir à chaque fois qu'ils veulent mettre le nez dehors, c'est qu'on leur fasse un passage de relais, un pied à l'étrier pour qu'ils soient un peu plus autonomes et qu'après ils se démerdent sans nous, qu'ils reviennent nous voir s'ils veulent faire une autre discipline, un autre truc ou passer au niveau supérieur, etc. Et ce côté-là, ouais, c'est un peu pour tendre la main à des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'envie, qui ont beaucoup, beaucoup de projets. Quand ils ont trois pintes dans le pif et qui sont dans le bar avec leurs potes, ils sont prêts à tout faire. Mais en fait, le lundi matin, ils font rien, quoi. Et les années, elles défilent, quoi. Et je crois que ça, c'est le cas de beaucoup de gens, quoi. Et ce que je trouve triste. Et donc, à la base, ma mission, elle est d'aider ces gars-là, quoi, ou ces filles-là. Et je pense, par contre, que le coronavirus et l'année qu'on vient de vivre, quand même permis une bonne prise de conscience de beaucoup de gens que en 2021 chaque opportunité est à saisir quoi, parce que parce que le temps file.
J'ai une, tu vois, ça me ramène sur ton parcours, parce que tu étais trader finalement. Moi, j'ai l'image du hamster en fait, et puis la communauté, c'est l'Hamsters Running Club. Tu aurais pu être un sacré hamster en fait. À tourner dans ta roue de trader, à dealer de la matière première ou des choses comme ça. En plus, c'était quoi? C'était
ouais, c'est ça.
Comme ça.
Ouais,
bah, je vois pas.
Je dealais des petits grains de blé.
Ouais, je vois pas le sens. Enfin, le sens de la mission du trader, ce truc-là, on a un peu de mal à l'apercevoir sur l'instant. C'est quoi? C'était une. Enfin, je peux pas te dire que c'est une échappée de la roue, mais ça ressemble à ça quand même, de se dire, je crée une entreprise, aventure, etc.
Ouais, c'est un peu une échappée de la roue, c'est vrai. En fait, alors, je fais une digression d'une minute sur le trading parce que il faut quand même rendre il faut que je rende à ces années-là ce qu'elles m'ont apporté aussi. Puis j'ai pas du tout envie de, tu vois, de radicaliser le sujet à cracher dans la soupe et tout en disant j'étais un sale type et maintenant je suis un gars bien. Parce qu'en vrai, c'est ce que tous ceux qui veulent me faire parler de cette transition-là caricaturent et je trouve pas ça complètement juste. Mais en gros, mon métier, à l'époque, c'était d'acheter des matières premières aux paysans et aux farmeurs de la planète entière, des matières premières agricoles, donc du blé, du maïs, du colza, du tournesol, du soja, et de les revendre aux pays qui en avaient besoin pour leur stock d'intervention, donc leur stock de famine, leur stock d'urgence, ou à des régions, enfin, c'était des gros, gros volumes. Et du coup, et moi, je bougeais de la marchandise physique. Donc, tu vois, j'achetais des bateaux de 60 000 tonnes, des super tankers ou des Panamax qui traversaient les océans, machin. Donc, j'étais quand même tu vois, j'avais pas l'impression d'être dans un monde parallèle. J'achetais du port de Perth en Australie et 60 000 tonnes de colza australien que j'allais shipper jusqu'à Rotterdam, tu vois. C'était des trucs réels. J'avais les douanes au départ, les douanes à l'arrivée, les mecs qui faisaient la qualité. J'avais un trader au bout du fil qui avait jeté ça à des farmers. Je connaissais d'où venaient les graines. Tout, j'étais dans une économie réelle, tu vois. Par contre, les volumes étaient comme si je faisais ça chez Cargill, qui est le leader une boîte américaine, la plus grosse boîte de la planète privée que personne ne connaît. On était 300 000 salariés. Les volumes étaient en millions de tonnes, quoi. C'était absolument colossal, quoi. C'était colossal. Et du coup, ça déconnecte. Les montants déconnectent. Et puis après, tu te dis, mais attends, mais si je. Ça veut dire que si j'achète. Là, j'ai 1 million de tonnes en transit. C'est-à-dire que si j'achète 1 million de tonnes moins cher que je ne vends, j'ai gagné 1 million de dollars. Bah ouais, oh putain, bah c'est pas mal ça. Bah attends, 2 secondes, est-ce que je pourrais pas acheter 12 dollars moins cher? Ça ferait 12 millions de dollars, ça, non, à la fin? Si j'achète 12 dollars moins cher, 1 million de tonnes. Et en fait, tu commences à te dire, et puis je pourrais pas faire d'autres flux, je pourrais pas. Et en fait, tu finis par, c'est sans fin. Et à la fin, tu brasses un pognon tel que tu as oublié ta mission initiale. En effet, tu as un peu oublié, et puis tu fais un peu moins de physique et un peu plus à l'écran, tu sais, d'électronique. Donc là, tu bouges rien, tu fais juste spéculer. Et là, en effet, tu accélères la roue du hamster. Là, ça tourne de plus en plus vite. Et du coup, à un moment, pour pas te casser la gueule dans une roue qui tourne vite, il faut courir plus vite. Et bon, ou tapis de course, ça marche aussi. Et du coup, là, je commençais à courir très, très vite. Tout ça, c'est une espèce de fuite en avant, mais sauf qu'on te. Sauf que tu es rewardé pour ça avec beaucoup d'argent et puis tu sors plus de ce cercle-là. Et en effet, j'ai fait deux sorties de roue, j'ai fait deux sorties de roue avortées. L'une après ma traversée de la France en courant, où là j'ai un truc qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, tu peux pas repartir dans la roue, quoi. Après avoir eu 3 semaines, enfin 15 jours de course, une semaine de repos complètement en dehors de la roue, pour reprendre ton image, quand je suis rentré dedans, je me suis dit, putain, vie de merde, quoi. Je suis un putain de hamster, quoi. C'est pas possible. Et en fait, j'ai posé ma dème, elle m'a été refusée. On m'a dit, tiens, mais t'es boss de ton boss, ça te va, tu restes? Je dis, ah bon, bon, ok. Et là, j'ai été un peu faible. J'ai dit, ok. Et 3 ans après, rebelote. Dem, non, non, t'es boss de ton boss. Et tu vas à Genève, t'es boss de l'Europe. Ok. Et je suis reparti dans des tours de roue comme ça, de 3 ans en 3 ans. Et quasiment 9 ans plus tard, troisième Dem. On me dit, ah non, 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 tiens, tiens, on va discuter. Mais là, j'étais déjà boss de l'Europe, je pouvais rien me proposer, juste peut-être plus d'argent, mais l'argent n'avait plus de prise sur moi à ce moment-là, parce que je me suis rendu compte que c'est ça qui me rendait, en fait, c'est ça qui faisait. Qui était la raison de la vitesse de ma roue, et c'était horrible. Et du coup, je suis pas revenu, quoi. J'ai dit non, et pas de sujet, pas de débat, je me barre. Donc tu vois, j'ai fait trois, c'est à la troisième sortie de roue que j'ai réussi, et à chaque fois, c'était pour ce projet Explora que j'avais en tête et que depuis mon retour de la traversée de la France en courant et que j'ai vu plein de gens qui m'avaient écrit des lettres à l'époque. Oh putain, des lettres, ouais, des lettres et des Facebook. J'avais Facebook, il y avait des messages sur Facebook déjà à l'époque, il y a 10 ou 10 ans, mais j'avais pas d'autres réseaux sociaux. Et il m'a dit bravo, machin, moi c'est inspirant. J'ai dit ah bon, j'avais pas trop conscience que ça inspirait d'autres gens. Mais il m'a dit, mais moi, voilà, course. Moi je lui disais, bah vas-y, toi aussi, lance-toi dans des trucs. Enfin, je sais pas, moi tu sais, j'étais un peu dans l'action, jeune, genre fais-le, un mois après ça se réalise, rien à foutre et tout, un peu bourrin comme ça. Et il m'a dit, mais moi la course à pied, je déteste, c'est pas mon truc et tout. Tu sais, donc je me suis rendu compte, je dis bon, bah, c'est pas la course à pied, c'est quoi ton truc? Et puis, et ainsi de suite, j'avais demandé comme ça peut-être plus d'une centaine de gens avec qui j'avais gardé des correspondances. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, après j'avais fait valider ça par une junior entreprise d'école pour faire un vrai échantillon et tout ça, et je m'étais rendu compte que 70% des rêves des gens, c'était toujours les mêmes choses en fait. C'est-à-dire que cette espèce de quatrième pied au tabouret, ce projet d'une vie qu'ils ont rêvé, c'était toujours des espèces de voyages d'exploration, ou en tout cas tu vois la Mongolie, à traverser la Mongolie à cheval, l'Atlas en trek, une transat, les Seven Summits, tu vois, c'était toujours un peu des trucs d'outdoor et un peu des aventures. Et du coup, Explora est né à ce moment-là. Je lui dis, bon, attends, un nom cool, Explora, ok, le projet Explora, je dépose le nom, je me dis, ok, il faut que j'aide les gens à réaliser ces projets-là. Donc, c'était pas vraiment du voyage dans ma tête à ce moment-là. C'était d'ailleurs, ma première baseline en anglais, c'était Life-Changing Experience Agency. Donc, tu vois, l'agence qui te fait des life-changing experiences, quoi. Des trucs qui te font changer de dimension, quoi. Donc, tu vois, l'ambition du gars, c'était de faire des trucs qui changent, qui déroutent un peu les gens de leur trajectoire droite pour leur faire créer des émotions, quoi. Et donc, je trouvais ça trop cool. Et puis, j'avais peut-être une dizaine de gens que je coachais à distance mais tout en étant en trading encore. Et donc, c'était un peu à distance. Et puis, j'ai gratté des calepins tous les matins. En allant au bureau, j'ai 8 calepins, 8 carnets aujourd'hui que j'ai encore pendant toutes ces années. Et si tu veux, j'avais posé ma DM, on m'avait refusé, mais je voulais que le projet vive encore. Donc tu vois, je continuais, je grattais des trucs. C'était un peu mon échappatoire entrepreneurial à moi. Et puis à côté, je courais dans la roue toute la journée, mais je me disais, ce soir, demain matin, tu auras une heure ou deux heures de sortie de roue autorisée, quoi. Et donc voilà, donc en gros, quand j'ai lancé ce projet, je l'avais déjà vachement mûri, je l'avais vraiment en tête et je savais pourquoi je quittais la roue, quoi. Du hamster, comme tu expliques bien.
Ouais, et donc finalement, maintenant, bon, t'es entrepreneur, on peut dire quoi? C'est une start-up finalement? Comment tu le...
Ouais, c'est une start-up, ouais. C'est une travel tech, tu vois, pour le terme, l'anglicisme affreux.
Ouais.
Mais ouais, c'est une agence de voyage d'aventure durable et on a des intermédiaires de tout le secteur. Donc, entre le guide local et le client final, il n'y a que nous. Tu vois, parce que normalement, tu as un tour opérateur, une agence de voyage, un réceptif local. Tout le monde te revend le même voyage. Mmh. En gros, ils se partagent à chaque fois un morceau de la marge. On te vend un truc exceptionnel, en fait. Il est passé dans trois mains différentes et il est vendu de la même manière. Il est exécuté de la même manière à destination, mais il est vendu comme unique et incredible aux quatre coins de la planète par des agences de ton pays. Mais en vrai, c'est un espèce d'entonnoir géant, le travel. Et ça, c'est le surtourisme. C'est comme ça que tu finis par faire tous le même voyage au même endroit au même moment. Mmh. C'est qu'en fait, à la sortie de l'entonnoir, bah, il y a très peu de réceptifs locaux dans les pays. Au Canada, il y en a 5-6. Donc, tu vois, tout le pays est à 5-6 boîtes, quoi. Donc, en gros, on finit tous par faire les mêmes trucs. Et ça, je trouvais ça insupportable. Parce que moi, je cherchais justement la différenciation de l'expérience et l'expérience presque unique et tout. Donc, c'était le premier élément. C'était de se dire, il va falloir qu'on fasse une boîte qui fait les métiers de trois personnes. Donc, qui vend, qui est présent sur les réseaux sociaux, qui vend en direct. Il y a peut-être même des agences avec pignon sur rue et qui exécute dans les pays de destination. Donc, qui produit tous les voyages, qui transporte matos, bouffe, hébergement, activité, guide. Tu vois, ça faisait un paquet de trucs. Je me disais, en fait, c'est une boîte de logistique à destination, mais en même temps, une grosse boîte de vente ultra sexy, production de contenu de malade, ou à l'origine, enfin, où tu veux, où est ton bassin de consommation, quoi. Moi, on avait commencé. J'étais à Genève au début, donc j'ai monté la boîte à Annecy. On est toujours à Annecy, on est 15 dans l'équipe. Et du coup, ça c'était fin 2018 en gros, et on a commencé à vraiment à vendre un peu vendre en 2019 et surtout beaucoup en 2020, étonnamment. Parce qu'Explora s'est retrouvé avec cette proposition de voyage d'aventure durable. s'est retrouvé à la croisée, tu vois, de un peu toutes les dynamiques sociétales qu'on a pris dans la tronche en 2020, qui est la nécessité de consommer des marques qui ont du sens, qui est la nécessité de se dépasser, de se trouver ce quatrième pied au tabouret, parce qu'on tourne comme un hamster dans notre vie, quoi. Alors là, c'est pas que dans notre boulot, parce que comme le boulot, c'est notre maison, bah, il n'y a plus qu'une seule roue, quoi, en gros. Il y a un peu tout, donc on devient un peu zinzin. Et puis la nécessité de se reconnecter avec la nature et de comme on a été dans la boîte ou dans la roue pendant des mois et des mois. Et tout ça, c'est, bah, on explorera et arriver un peu avec le bon produit, tu vois, au bon moment. Il y a toujours un facteur un peu de chance, hein, dans les histoires de boîtes. Mais, et donc, on avait 1000 membres sur la plateforme en mars 2020. Et un an après, il y a 100 000 inscrits sur la plateforme. Donc, ça a créé un... Ça a créé, je sais pas, ça nous a un peu dépassé cette histoire, parce qu'en année Covid, on pensait pas du tout qu'il allait se passer ça. Mais néanmoins, ça conforte en tout cas, moi, au-delà des chiffres, c'est ma mission, tu vois, là, je me sens en mission de faire vivre des expériences puissantes aux gens en outdoor. Et quand les gens me renvoient sur les questions de satisfaction 5 sur 5, quand je repense à ce qu'on a vécu en haut de cette cascade de glace, j'en ai les larmes aux yeux, putain, ça me fait un truc dans le ventre, quoi. Et je me dis que ce que j'ai vécu en course à pied, c'est, je suis content de pouvoir le retranscrire sous des formes un peu plus variées à d'autres, quoi.
Est-ce que ton expérience de coureur, elle te sert en tant qu'entrepreneur? Dans la planification, dans la préparation, alors, à part se balancer, de dire je vais courir le Pérou dans quelques jours, mais.
Ouais, c'est une bonne question. Je crois que oui, même si aujourd'hui, étonnamment, j'ai beaucoup plus de mal à trouver le temps de faire la course à pied, mais c'est moi qui, dans le contexte actuel de Covid, quand t'as une boîte dans le travel, tu priorises, et je sais que c'est très très court terme, et l'idée est évidemment de continuer à s'y remettre. Je me suis fixé des objectifs sur 2021 pour ça, mais moi je crois oui, pour surtout dans le mental. Je pense que la course à pied a permet de se fixer des objectifs assez simples, avec surtout la capacité aussi assez simple de savoir si on est capable de les atteindre. Tu vois, il y a plein de sports où la performance ou l'atteinte d'un objectif est un peu subjective parfois. Est-ce que j'ai bien fait ça? Tu vois, c'est pas pareil que tu l'as fait ou tu l'as pas fait, quoi. Tu peux toujours avoir un adversaire au tennis qui est meilleur que toi. Tu peux jouer super bien et perdre un match, tu vois. C'est jamais très facile. Et pareil dans plein de sports. En course à pied, tu veux faire un marathon, t'arrives pas, quoi. Enfin, tu veux faire un semi, t'arrives ou t'arrives pas, quoi. Et donc, je trouve que c'est un très bon exercice pour cultiver une forme de résilience, je veux pas faire peur, mais d'acceptation ou d'acceptabilité d'une forme de souffrance quand même, parce que la course à pied, c'est aussi de la souffrance, ça dépend à quel niveau, mais alors je vais pas plomber l'ambiance, mais on sait qu'il y a eu plusieurs, tu vois, enfin c'est un exemple un peu criant, mais il y a eu plusieurs suicides dans les équipes de marathoniens, dans les équipes de France de marathoniens, de marathon, parce que c'est des vides à 7, quoi. Tu vois, c'est dur, quoi, c'est dur et c'est dur, sans en arriver là, évidemment. Mais évidemment, mais ça reste un plaisir.
Ouais, je ne sais pas si tu as vu, mais l'équipe sortait ce week-end, ils ont sorti un dossier sur le burn-out des cyclistes.
Ah, c'est vrai.
Ouais, y a eu,
Mais je peux tout à fait comprendre dans exactement la même veine.
Enfin, alors, je dis ça, on enregistre le 22 février, mais j'ai vu passer ça, en fait, ils ont fait je crois que c'est dans l'équipe magazine, un dossier justement sur disant que le cycliste, parce qu'en endurance, c'est quand même des gars qui sont... Enfin voilà, on se demande comment ils font pour tenir sur des vélos comme ça, et puis ça explique beaucoup de choses aussi, surtout avec faible masse grasse qu'ils ont, et comment ils arrivent à tenir ce choc-là, et avec les régimes alimentaires qui s'infligent. Mais c'est vrai qu'ils font partie aussi, et on peut comprendre, quand il y a des heures d'entraînement comme ça, quand il y a autant d'entraînement, etc., tout ce qui est burn-out, tout ce qui est pression sur leur corps et leur mental. Donc je suis pas très étonné en fait que dans les sports d'endurance comme ça, il y a autant de difficultés psychologiques à le supporter, quoi.
Ouais, c'est dur. Surtout, je pense que dans ces sports-là, où il commence à y avoir... il commence à faire plusieurs années, mais il y a pas mal d'argent, tu vois, en jeu. Je pense que la pression, elle doit être très, très dure. Il y a un vrai lien entre la course d'ultra et l'ultra-cyclisme, comme ça, parce que c'est assez monotone, il n'y a pas beaucoup de variété dans l'effort, il peut y avoir de la variété dans les paysages, mais donc ça veut dire que c'est dur, ça veut dire que l'entraînement, il y a un moment, tu as un effet, on sait que quand on s'entraîne, il faut à la fois faire à la fois faire du cardio et du long, tu vois, augmenter la taille de la cylindrée et après la remplir. Et bah, le cardio, encore, tu peux y trouver un peu de phase de récup différent. Le long, putain, le long, c'est le long, quoi. Le long, il n'y a pas de sujet, hein, c'est le long. Et je peux bien imaginer que dans cette phase de Covid où il y a eu des périodes où ils devaient s'entraîner chez eux aussi. Hein. Il y a eu des longs mois où les gars, ils étaient en home training. Oh là là, attends. Franchement, non, je conçois. J'ai beaucoup d'admiration pour ces sportifs-là. C'est dur, je ne pourrais pas le faire moi-même. C'est pour ça que j'ai vu que je pouvais atteindre par effet de bord 3 heures au marathon avec mon volume d'entraînement. Mais ce n'est jamais un but que j'ai poursuivi, tu vois, de faire vraiment mieux au marathon. Parce que je crois que ça m'angoisse un peu l'entraînement marathon à proprement parler pour vraiment taper en dessous de 3 heures et tout. Je pense qu'il faut organiser ta vie autour de ça quand même. Et moi, j'ai quand même envie que ma vie elle soit un peu cool, tu vois. J'ai pas envie de réfléchir quand on me propose une bière, quoi. Tu vois, j'ai envie de la prendre et dire ouais, carrément, merci, ça fait plaisir. Et si je veux en prendre deux, j'en prends deux. Et si je veux aller faire un tour au McDo parce que j'ai pas le temps et que c'est le seul truc qui est pratique, machin, je veux pas me faire des nœuds au cerveau pour ça, quoi. Donc en gros, c'est un peu j'essaie de mettre un point d'honneur à faire des trucs cool sportivement. Tu vois, les quatre pieds du tabouret, je crois que s'il y en a un qui mange les autres. On va te dire bravo sur un podcast de course à pied, mais après, si ta vie familiale ou professionnelle, elle est au fond du trou parce que t'investis que à course à pied, bah, écoute, ça, c'est un peu creux, quoi. Donc, c'est peut-être ça la difficulté. Mm. En tout cas, ça, c'est ma target, quoi, voilà. Moi.
Et ce week-end, j'ai vu un documentaire sur Disney+. Alors, ceux qui sont parents et ont Disney+, pour les gamins, c'est pratique. Il y a un documentaire sur la première tentative de marathon moins de 2 heures. Et qui est donc qui était organisé par Nike à l'époque avec Kipchoge qui finit à 25 secondes hein, du marathon 2 heures sur le circuit de Monza. Et ce qui est extrêmement étonnant quand on voit les images, c'est en fait ils disent il est millionnaire, mais il a une vie de famille, on le voit jouer avec ses gamins, etc., avec une notion de groupe, beaucoup de groupe, etc. Et lui, il dit en fait la force du collectif, il s'inscrit vraiment dans le collectif, dans la famille, dans plein de choses comme ça, qui va peut-être à l'encontre d'ailleurs de ce qu'on peut voir dans plein de choses, etc., mais qui explique aussi peut-être sa longévité, parce que Kipchoge, on a l'impression comme ça qu'il s'arrête jamais, même sur physiquement on a l'impression que ça fait des années qu'on le voit courir, etc. Peut-être, et c'est ce qu'ils avaient l'air de dire aussi, que c'était un peu son secret à lui, hein, ses secrets pour supporter autant d'entraînement, d'ailleurs il a tout optimisé, mais en fait il est pas tout seul dans son coin, hein. Il est pas loin d'être tout seul, il est entouré, notamment par la famille, par envoyer ces groupes d'entraînement à table où ils faisaient des grandes tablées avec plein de sportifs, etc. Alors des mecs qui courent à 22 km/h quand même, hein.
Mecs qui courent comme ta bagnole, mais on les appelle quand même coureurs.
Voilà, mais ne rigole pas, parce que le gars en fait dans ce projet ils étaient trois, moi je me rappelais pas qu'il y en avait trois, et il y en a un notamment qui était champion du monde de semi-marathon, et le premier truc qu'ils lui ont fait faire pour l'optimiser, c'est le faire boire pendant les courses. Tu te rends compte, le gars il courait le semi-marathon et il buvait pas. Et quand il passait sur marathon, il en avait fait 5, il y en avait 3, il a abandonné. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il buvait pas, il avait jamais besoin de boire, etc. Mais c'est ce qui le limitait. Donc comme quoi, tu vois, des fois, même des gars qui courent très vite, il y a toujours de l'amélioration possible. Bon, c'était la petite parenthèse, parce que c'est même ces gars-là, qui semblent être des chevaux de course, qui sont des chevaux de course, hein, qui courent à 22 km/h, parce que il avait fait ce gars qui buvait pas, courait le semi-marathon moins d'une heure, ont de l'optimisation, tu vois.
Ça, je sais pas si nous, je l'avais vu ce Kipchoge sur Monza, j'ai trouvé que c'était beau, c'était assez esthétique ce qu'ils avaient fait, tu sais, avec la voiture, ils devaient suivre la limite, le rayon, là, c'était vraiment impressionnant. Mais je sais pas si nous, hommes blancs que nous sommes, on serait capable je pense pas, ils sont vraiment à la limite du corporel. Je sais pas les hommes blancs, quel est leur record, mais je pense qu'ils sont loin.
Hein, je sais pas, parce que j'ai la Wenders sur semi-marathon, j'ai la Wenders, c'est assez rapide. Mais tu vois, il y a un truc, et ça va boucler sur ce que tu disais quand tu rentrais du boulot en courant. Je sais plus lequel des trois racontait que quand il était gamin, il allait à l'école le matin en courant, pieds nus, 14,5 km le matin en courant, pieds nus, et il rentrait le soir. Et ça m'a fait penser, j'ai regardé un autre film en plus, j'ai passé mon week-end sur Disney+, parce que comme j'ai mal au genou, je dois me faire opérer, j'ai un peu de temps sur mon canapé, sur un film qui s'appelle McFarland, qui est aussi sur Disney+, qui montre un entraîneur et qui découvre que ces petits, dans un lycée, ils sont nuls au football américain, mais ils savent courir, en fait. et qu'il ait fait gagner les championnats régionaux de Californie, tu vois, en cross. Et que c'est pareil, c'est des gamins qui courent dans les champs et comme ça, et en fait, qui n'avaient pas idée qu'ils pouvaient, grâce à la course, tu vois, trouver quelque chose d'autre, de différent. Et aussi, bah, finalement, c'était assez... tu vois, les parallèles, ils sont marrants comme ça dans le truc, parce qu'on se dit que finalement, toi aussi, à un moment donné, courir pour rentrer du boulot, c'était ouais, aussi une manière, finalement, de s'entraîner. Il y en a beaucoup, des sportifs, parce qu'on ne voit pas, mais les sportifs, ouais. Même des grands champions, etc. Alors, j'ai perdu leur nom, mais certains qui sont, font des études de médecine, qui vont à l'hôpital le matin en courant, qui rentrent le soir en courant, etc.
Mais il faut faire rentrer ça dans son quotidien, tu vois. Je crois que c'est vraiment, la, c'est vraiment le plus dur. C'est comment arriver à garder tu vois, ceux qui font ça, ils essaient de garder tous les pieds de leur tabouret un peu à l'équilibre, ouais. Et ils essaient de faire rentrer la course à pied, le sport où ils peuvent sans perturber les autres équilibres. Ça, c'est vachement intelligent. Bon, après, parfois il y a pas vraiment le choix, mais à partir du moment où on arrive à trouver son organisation de semaine classique où on peut faire rentrer un entraînement ou plusieurs entraînements, là je pense qu'on commence à tenir quelque chose, parce que après sur la longueur et la répétition, on peut carrément s'améliorer. Donc c'était un peu difficile avec le enfin ça dépend, moi à titre perso c'était compliqué avec le Covid, et j'ai eu du mal à trouver les semaines, elles se ressemblaient pas, quoi. Donc c'était, tu vois, je courais un peu à l'opportunisme à droite à gauche, mais c'est pas facile. Moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez riche à, déjà dans le côté répétitif en fait, et les gens prendre un peu, je trouve ça bizarre, mais parce que c'est aussi leur difficulté. Et moi, c'est ce que je trouve bien, c'est que dans le répétitif, tu vas créer de l'abnégation, quoi. Tu vois, quand j'avais le temps, en fait, en gros, jusqu'à il y a 2-3 ans, jusqu'à ce que je lance ma boîte, j'ai jamais manqué un entraînement. Quand je me disais cette semaine ou ce mois-ci, tu fais ça, je n'ai jamais pas mis mes baskets, quel que soit le temps, quel que soit le truc. Et en fait, plus tu le fais, bah, plus tu construis une résistance, tu vois, une force. Pour toi, l'entraînement est de plus en plus, pas sacré, mais en tout cas, tu n'y déroges pas. Et donc, tu es solide et tu seras solide en course. Enfin, aussi. Et c'est comme ça que la force mentale, elle démarre au moment où tu dois choisir entre regarder un épisode de plus ou mettre tes baskets, quoi. Finalement, ta performance de course, elle, pour moi, elle se joue dans ces moments-là, quoi.
Bah, écoute, ça fait une très belle conclusion, cette histoire-là.
Ouais.
Hein, on a fait une bonne discussion dessus. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va rappeler un petit peu où te suivre, parce que entre Explora Project et ton compte perso, notamment sur Instagram, où il y a les deux, mais après, je sais pas, où est-ce que tu préfères qu'on te suive? Dis-nous tout.
Ouais, bah sur mon compte perso, vous pouvez aller voir Explora Project si le voyage d'aventure vous intéresse aussi, évidemment. Mais sur mon compte perso, Stan Gruau. Sur GRUAU, Stan Gruau, je suis actif sur Instagram et LinkedIn. Et récemment, Clubhouse, à voir si on peut faire quelque chose autour du running sur ce nouveau réseau social. Mmh. Assez intéressant. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant de structuré, c'est très start-up, mais je pense que ça peut s'ouvrir aussi. Et puis, il y a des belles communautés de running qui peuvent naître là-dessus. Mmh. Donc voilà, Stan Gruau sur LinkedIn, Clubhouse et surtout Instagram.
Ouais, alors pour l'anecdote, hein, l'autre jour, j'étais dans une salle où j'étais avec Alex Viseo et.
Ah, c'est vrai?
Oui, je suis passé un petit moment. J'en ai fait un épisode de podcast pour te raconter l'histoire, parce que c'était le jeudi soir, 18h, et c'est le moment où je suis avec ma fille. Et ma fille, elle piaillait et tout. Et là, j'écoutais le truc, et puis je partais un bout du passage, je me suis dit, bon, mais c'est pas grave, de toute façon, je vois lundi, je l'aurai lundi en audio, donc je saurai exactement quoi lui poser comme question. Mais c'est vrai que Clubhouse avait ce côté frustrant à un moment donné, quant à, moi, c'est une question de timing, et puis.
Mais je suis d'accord.
Et je réfléchissais, tu sais, sur l'entraînement. Rien, hein. Et je me disais, parce que j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure sur l'entraînement, et je disais, écoute, on va créer un truc de running sur Clubhouse, et puis je dis, attends, on va créer ça à quelle heure? Alors on fait la rencontre des runners à midi. Non, ils s'entraînent. Alors, à 18h, bon, oui, ils sont tous à la maison, mais il y a les enfants à ce moment-là, c'est moins facile. On va faire 21h. Allez, 21h. Tu es en train de chercher le créneau.
Ouais, c'est pas facile parce que c'est un réseau social que tu peux pas faire en on-off comme tu fais sur d'autres. Tu vois, tu peux pas rester 2 minutes, c'est des conversations que t'écoutes, donc c'est hyper chronophage. Mais bon, ça c'est un peu excessif au début, ça va sûrement se réguler. Mais ouais, ça semble être le midi ou fin de journée, mais pas évident.
Voilà, et eh ben écoute, voici, on verra ce qui va se passer sur Clubhouse et sur les autres réseaux. De toute façon, l'audio va s'imposer, ça c'est sûr. Est-ce que ça remplacera le podcast comme tout le monde le pense? Ça, j'en suis beaucoup beaucoup moins sûr, parce que de toute façon, sur Clubhouse, pour partir faire une sortie longue en écoutant, en étant toujours branché, vous allez voir, ça va vite vous casser les, hein, ouais. Parce qu'il faut appuyer sur des boutons de temps en temps pour prendre la parole ou quoi que ce soit. Même si on pourrait imaginer, j'avais imaginé, parce que tout à l'heure tu parlais de cette histoire de discussion, de téléphoner, etc. Moi, j'ai fait des épisodes de podcast en courant, hein, donc ça m'est déjà arrivé. Ouais. Donc, pourquoi pas faire des clubhouse de runners qui, finalement, à midi, on pourrait partir en courant, chacun dans son coin. Ça pourrait être une sorte d'aventure, partager ça, etc.
Je suis tout à fait d'accord. Quand tu disais les gens courent, je me disais, bah, ils pourraient être sur la roue, mais ça crédibiliserait leur intervention, ce serait ce côté un peu rigolo. Mais après, il faut être dans un endroit où on capte, hein.
Ouais,
voilà. Il faut pas être en pleine pampa. Mais...
Voilà. Et ben, de tout ça, on va en reparler, on verra un petit peu à droite, à gauche. En tout cas, je te remercie, Stan, pour toutes ces infos, cette vision. Et puis, je suis sûr qu'il y en a qui avaient des idées en tête de projets, etc. Alors, peut-être pas de traverser la France, etc., mais chacun son truc. Et après, tu sais, il y en a qui ont parlé de traverser de l'Europe. Arnaud de Mister, j'ai l'autre jour, lui, c'est la Norvège jusqu'en Espagne, en vélo, hein, 5000 bornes de vélo. Tu vois, dans les jardins, traverser aussi, il y a des espèces de choses qui sont intéressantes. Et je pense à certains aussi qui ont des chouettes projets aussi. Donc, en tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le temps passé avec nous. Et nous, ben, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous dis pas l'invité, ce sera la surprise. Ciao, ciao.
Merci beaucoup Bertrand, merci de ton invitation, salut.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.